Hey, je me suis fait reprendre, c'est un jingle qui accueille cette rubrique que le monde nous envie, Famitsu Mimasen. C'est l'occasion de revenir et de noter, ouais, parce que c'est le plus important, les différents jeux qui nous sont passés entre les mains durant le mois de mars, et Dieu sait s'il y en a eu, à commencer par Unicorn Overlord. Alors pourquoi on met Unicorn Overlord dans le jeu du mois? C'est parce que c'est celui auquel on a pu consacrer le plus de temps, tous les trois autour de cette table. Ce sera notre jeu du mois, Unicorn Overlord. C'est le dernier jeu estampillé Vanillaware. Vanillaware, le studio de Dragon's Crown, le studio de 13 Sentinels, le studio de Odin Sphere et tant d'autres. Muramasa, on ne les cite plus, des studios qui avaient pas de graphique absolument sensationnel que l'on retrouve dans Unicorn Overlord. Unicorn Overlord qui est un petit peu l'hommage rendu au grand jeu de stratégie, à commencer par l'un des plus connus au Japon, à savoir Ogre Battle, mais on peut également citer Dragon Force. Bref, un mélange de stratégie de temps réel et de tour par tour grâce à la pause active, et surtout grâce aussi à la composition des unités qui va avoir une réelle incidence sur la façon dont on va mener les batailles au fur et à mesure, puisque Unicorn Overlord, c'est ça, c'est l'idée d'avoir des grandes batailles qui se jouent tout autour d'un conflit, autour d'une région qui s'appelle Cornia. Voilà, il y a un usurpateur qui s'empare du trône, et le but du prince Alain et de tous ses sbires, eh bien, c'est de faire en sorte de le bouter hors du trône. De ses sujets, pardon, oui, les sbires, c'est plutôt pour les méchants. tous ses sujets, eh bien, il va rallier à lui toutes les forces des différentes régions avoisinantes pour reprendre la forteresse qui est au centre, au cœur de l'univers. C'est un petit peu comme Zelda, Tears of the Kingdom, Zelda Breath of the Wild. On a vraiment l'objectif qui est dessiné au cœur du monde, et on va tourner tout autour pour essayer de se renforcer et de vaincre. Voilà, je pense que le scénario, de toute façon, tient sur ce petit timbre-poste-là. Alors, évidemment, il y a plein de ramifications, les elfes.
C'est de l'heroic fantasy.
C'est de l'heroic fantasy. Ouais. T'as le monde du désert, t'as la forêt enchantée, t'as le monde de glace tout autour, et tu vas papillonner comme ça, de forteresse en forteresse, à ranimer les différentes villes. Et, ce faisant, rallier à toi, je l'ai dit, tout autour de ton étendard, et bien toutes les forces vives des différentes nations. Je pense qu'on peut le résumer comme ça, on écarte le sujet très vite.
Tu devrais écrire des pitchs.
Ouais, surtout, moi, tu sais, le scénario, hein, vite. Comme on l'a dit lors de l'émission live que le monde nous envie.
Alors, tu sais quoi ?
Un peu annexe.
C'est pas un jeu à scénario, parce que le scénario, il est de base. C'est un enfant qui est parti en exil et qui revient pour essayer de reconquérir leur royaume et venger sa famille. Enfin, je veux dire, ça pourrait être du Game of Thrones, hein, mais c'est beaucoup plus light. C'est pas un jeu à scénario, mais par contre, je trouve que c'est pas mal écrit du tout. Je trouve que les personnages sont plutôt bien construits, et les relations, les ramifications entre les personnages sont plutôt intéressants. Je pense que on est dans le haut du panier Fire Emblem.
Je caricature évidemment, hein, y a plein d'enjeux qui se nouent, il y a plein de
l'histoire est cool. Tu peux suivre trahison, l'histoire, tu peux skipper l'histoire, mais j'ai adoré
entre les hommes bêtes qui se voilà, qui ont différents conflits intérieurs, les elfes qui sont un petit peu mis à l'écart. Voilà,
alors oui, mais c'est réglé en 5 phrases.
Voilà,
et c'est ça qui est appréciable, c'est que c'est une narration années 80. Dans laquelle on rentre pas dans le détail, mais le cœur de l'intrigue et le cœur du drame est malgré tout très bien retransmis par les personnages qui sont voilà, les sprites sont superbement animés, et le caractère design qui est assez exagéré, que ce soit dans ses proportions ou dans ses expressions, rend le tout hyper vivant, et t'as pas besoin d'une intro de 30 minutes pour comprendre que face à un drame et à une guerre de pouvoir, et que c'est vraiment une situation désespérée que tu dois retourner au fur et à mesure. Et effectivement, peut-être que les gens d'aujourd'hui vont trouver que le personnage change vite d'avis, genre « Ah, Prince Alain, je crois pas en vous, hop, tu gagnes une bataille, oh là là, mais en fait, si, je vais venir avec vous ». Mais c'est aussi ce délice un peu naïf qu'on aime retrouver, nous, les gens qui jouions, comme tu l'as dit, à Dragon Force, à Shining Force, à Ogre Battle, où ouais, le tournant d'un royaume pouvait se jouer en 5 phrases, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire de très belles cinématiques à l'époque, et c'est tant mieux.
Ouais. Le jeu se répartit en plusieurs phases. La plus importante, c'est évidemment la phase de bataille, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est cette espèce de rapport d'échelle qui est préservé entre l'exploration et les combats eux-mêmes, c'est-à-dire que quand on va évoluer sur la map, on sera toujours à la même échelle avec le prince Alain qui se déplace. Et l'idée, c'est que les phases passives d'exploration servent à récupérer différentes ressources qui vont pouvoir être transformées dans les différentes villes, puisqu'on va pouvoir upgrader les villes que l'on libère, et ces upgrades vont donner des médailles, et les médailles, c'est un petit peu le nerf de la guerre, parce que c'est ça qui va te permettre de faire grossir les rangs de tes unités,
Tu peux augmenter le nombre de factions.
Augmenter le nombre de gens qui vont pouvoir composer les unités. Et bah, cette ressource-là, le fait d'être, d'évoluer en plus grand nombre, bah, c'est ce qui va aussi te permettre de faciliter les batailles, puisque la composition des formations, des régiments, alors régiments, ils sont 5 au maximum, donc c'est un petit peu dire, mais en tout
c'est
cas...
C'est des platoons, comme on
des,
dit.
Voilà, c'est ça, des... Comment dire,
des escadrons.
La formation des escouades va avoir une incidence fondamentale sur l'issue des différents combats, puisque... On va pouvoir recruter parmi différentes classes et chaque classe a une spécificité. Le, bah, typiquement, voilà, une unité volante va permettre de passer au-dessus des différents récifs, montagneux. Oui, ça.
Le gros balèze en armure.
Le gros balèze en armure va protéger les faibles qui sont derrière. Alors les faibles, c'est évidemment les magiciens qui sont plus fragiles que les autres.
Ou les archers.
Ou les archers. Enfin voilà.
Indispensable archer.
Et l'idée, c'est de réussir à panacher suffisamment bien les unités en tenant compte des spécificités des uns des autres et en les équipant. Faire en sorte que on adapte le profil de ces unités aux unités qui sont en face, quitte parfois même durant le combat à repanacher les différents personnages qui la composent pour s'adapter, que ce soit s'adapter aux conditions du terrain, puisque bah, les unités volantes passent à travers au-dessus des marécages, au-dessus des protections et ce genre de choses, mais également aux spécificités de l'unité ennemie, puisque bah, par exemple certains types d'ennemis difficiles à toucher comme des unités très rapides, bah, un archer pourra par exemple les sniper. Voilà, c'est un petit peu comme ça que fonctionne toute la synergie autour du jeu. Est-ce que cette synergie,
que
vous avez bien parlé d'ailleurs,
alors, je pense que tu es allé un peu vite je pense que tu es allé un peu vite sur le principe fondamental qui fait que pour moi Unicorn Overlord est un incroyable jeu. C'est que les jeux dont il s'inspire, donc Dragon Force, Ogre Battle, etc., sont des jeux qui étaient en fait des maps à conquérir entrecoupées de petites cutscenes et de passages au magasin. Ce qui est brillant ici dans Unicorn Overlord, c'est que tu ne te contentes pas d'avoir trois PNJ qui disent « Oh, merci d'avoir libéré notre ville !» Quand tu as gagné une bataille, tu as libéré une ville et l'interaction que tu vas avoir avec cette ville est importante puisque au départ, cette ville est toute cassée et tu peux te balader sur la carte du jeu récupérer des éléments, du bois, du fer, tu peux aller miner et grâce à ces ressources, tu vas guérir, entre guillemets, retaper la ville. Et en retapant la ville, tu vas avoir accès à des nouvelles choses. Par exemple, il y a des villes, toutes les villes portuaires, quand tu les reconstruis, le bateau va t'emmener à des endroits où tu pourras récupérer des matériaux cachés, des objets cachés. Donc le
magasin devient plus fourni.
C'est important pour la fin de jeu, en fait, d'avoir tout ça de débloquer. Et il y a une vraie. Tu vois un vrai changement à tes actions. C'est-à-dire qu'il y a des batailles obligatoires pour l'avancée du jeu, il y a des batailles optionnelles, c'est-à-dire il y a certaines villes, tu peux les libérer ou pas, tu n'es pas obligé, mais tu vois une véritable action, un véritable résultat de tes actions sur l'environnement. Mmh. Et ça, c'est vraiment génial par rapport à tous les autres jeux de ce genre qu'on a eu jusqu'à présent. C'est pas juste t'as accès à des nouvelles villes, c'est que tu as accès à des nouvelles choses et il y a un investissement, comme tu l'as dit, récupérer du poisson, etc. Ça va te permettre de gagner des couronnes, je crois, et ces couronnes vont te permettre des médailles, voilà. Et ces médailles vont te permettre d'acheter des nouvelles unités, d'agrandir des unités. Donc il y a un vrai et puis en plus, comme l'échelle est inspirée des jeux 2D, les quêtes FedEx, ça se fait en 2 minutes. Mmh. Ah mince, il manque 3 bouts de bois, bon bah hop, tu traverses un continent en 30 secondes.
Tu peux même poster des gardes dans les villes, oui, que tu as libérées pour que, de façon passive, ils viennent récupérer des ressources.
Exactement, et c'est ça que je trouve vraiment incroyable, c'est que tu as un vrai rapport avec le monde que tu libères. Ouais. Et de la même manière que tu peux libérer des villes, tu peux libérer aussi des garnisons. Et dans ces garnisons, tu vas pouvoir recruter des nouvelles unités auxquelles tu n'as pas forcément accès tout de suite. Par exemple, l'une des unités les plus puissantes du jeu, c'est les chevaliers griffons. Et ben le personnage nommé et scénarisé chevalier griffon que tu vas avoir dans ton équipe arrive relativement tard dans l'aventure, alors que si tu libères la bonne garnison, dès la fin du chapitre 1, tu peux avoir un chevalier griffon. Bon, ça sera un PNJ, il n'aura pas d'interaction avec les autres, mais tu peux très vite commencer déjà à casser le jeu dès le début en libérant ces différents endroits.
Tu parles d'interaction avec les autres, il y a aussi ça qui est repris de Fire Emblem, c'est que plus les unités vont être ensemble,
tu les fais matcher.
Plus il y a un degré d'amitié qui va se révéler au fur et à mesure, et ça va libérer de nouvelles cutscenes, ça va les débloquer, et puis tu vas avoir quelques petites affinités supplémentaires une fois en bataille qui peuvent changer un petit peu la donne.
Et c'est ça qui est très fort aussi dans le jeu, c'est que donc à l'ancienne, il n'y a pas de cutscene, tout se règle en trois phrases, ouais. Mais il y a une caractérisation très forte de beaucoup de personnages, ouais. Et
on peut les aimer avec ce qu'ils expriment à l'écran, c'est-à-dire tu vois les interactions, tu vois, il dit « Ah, moi, il faut que je libère mon frère, ma maman, elle est décédée, donc du coup, je vous rejoins. » Genre, ils ont des passifs, ils ont des trucs.
C'est vraiment tout le côté Fire Emblem à l'ancienne, Fire Emblem un peu GBA ou Fire Emblem de première génération,
vite,
on va dire.
Voilà. Mais par contre,
t'as pas de monastère au milieu, quoi.
Ouais. Ouais.
Non, et puis surtout.
je vois ce que tu veux dire.
Et puis surtout, c'est pas juste le héros va trouver une waifu. C'est vraiment. Il y a énormément d'interactions cachées entre plein de personnages différents. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, avoir un frère et sa sœur. Donc, si tu les mets ensemble et qu'ils se battent longtemps ensemble, leur degré d'affinité va augmenter. Et puis, tu vas avoir des cutscenes qui vont te révéler dans le passé. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. T'as des chevaliers qui s'aiment pas trop. Si tu les mets ensemble, au final, va se développer une espèce de bromance. T'as plein d'interactions cachées, pas seulement avec le héros et toutes les filles du jeu. Parce qu'il faut dire ce qui est quand même Unicorn Overlord.
Toutes les filles ou les garçons?
Oui,
mais tu peux aussi matcher à la fin avec un garçon.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le jeu t'encourage à te marier. Enfin, à te marier symboliquement, il faut que à la fin du jeu.
Tu n'es pas obligé de te marier, mais la vraie fin, c'est en faisant une union.
Voilà, c'est-à-dire que tu as un autel sacré sur lequel il faut que tu amènes ton anneau de la licorne et un deuxième anneau. Et donc, à qui tu vas donner cet anneau? Avec quelqu'un avec qui tu as une affinité, Max.
Que tu peux donner. Moi, j'ai le choix, je pouvais prendre Bruno, la brute. Non, mais parce qu'il est resté avec mon héros pendant tout le temps.
Il faut aussi le dire, hein, on est en 2024. Voilà, il n'y a pas de limite de sexe, même si, évidemment, les femmes, enfin, les relations hétéros sont grandement. Encouragé par les passages obligés du jeu, mais tu peux te marier avec qui tu veux. Et donc, voilà, là où je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas que le héros. Tu peux aussi faire développer des bromances ou des romances entre d'autres personnages. Si ton chouchou, c'est le chevalier moustachu, bon, bah, tu peux lui faire développer une bromance avec Chloé, je crois. Donc, c'est assez intéressant.
Et tu peux ensuite, d'ailleurs, les mettre au repas, comme dans tous les bons JRPG.
C'est vrai.
Il y a une séquence de bouffe. Et du coup, quand tu matches, tu peux faire des matchings dans les séquences de bouffe.
Ah bah ça,
et
c'est l'étiquette Vanillaware. Hein, quand les plats mijotent, tu vois vraiment.
Et bien sûr, tout cela est facultatif. C'est pas le centre du jeu. Le centre du jeu,
Parlons-en du centre du jeu. Toi, Daniel, qui adore la stratégie.
Je vous ai laissé parler. Vous avez parlé brillamment, vous avez résumé.
Est-ce que Unicorn Overlord t'a également convaincu sur cet aspect-là?
D'abord, je vous remercie d'avoir résumé brillamment le système mieux que je l'aurais fait. Ça, je vais pouvoir aller directement dans le ressenti. Moi, j'adore les jeux tactiques à la japonaise. Dragon Force, évidemment, celui qui vient en tête. Mais en fait, je pense beaucoup à Albert Odyssey 1 et 2, alors qu'ils sont sur PS Famicom. Les gens pensent beaucoup à Albert Odyssey Gaiden parce qu'il était sur Saturn, mais c'est un JRPG traditionnel. Albert Odyssey 1 et 2, il y avait aussi cet aspect tactique, même échelle en sortant de la ville, mais qui était pas en temps réel. Donc le côté Dragon Force, c'est là où se fait le temps réel et la formation des équipes. Là, on est dans le Ogre Battle. Donc c'est vraiment un mix de tout ce que j'aime. Et je pense que d'abord si 13 Sentinels était pas un jeu vraiment à part, je pense que c'est vraiment le chef-d'œuvre de Vanillaware. Je pense que c'est mon Vanillaware préféré, je pense, hein. Parce que il épouse exactement ce que fait Vanillaware, c'est-à-dire les personnages sont tous soignés, hommes comme femmes. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, je tiens à dire, c'est que on sent un peu le fétichisme. Ils adorent les personnages, ils aiment faire des beaux personnages, que ce soit hommes, femmes. Mais ensuite, il y a tous les fétiches, c'est-à-dire il y a les hommes loups, il y a les hommes ours, il y a les hommes, il y a les personnages.
Il y a les sorcières à gros seins.
Il y a les sorcières à gros seins.
Les femmes chouettes.
Alors, et on pourrait dire presque que c'est de l'exploitation de la part.
Les gladiateurs en slip.
Les gladiateurs en slip.
Enfin, il y a les archétypes de tout le monde.
Il y a tout, mais ils sont faits avec délicatesse, mais en même temps, si tu regardes vraiment précisément, tu dis waouh, comment ils ont fait pour, parce qu'il y a des micro-animations sur les personnages, hommes ou femmes, hein, d'accord. Il y a vraiment tout ce que tu veux. Vraiment, c'est le melting pot c'est le best-of de Vanillaware, en fait, vraiment en termes visuels. Donc vraiment, je trouve que d'abord c'est très très beau. Vraiment, ils ont mis le paquet. Faut quand même avoir du courage pour sortir un jeu comme ça en 2D, une nouvelle IP. Ils sortent un jeu tous les 6-7 ans maintenant.
Ah, surtout qu'il a mis plus de 10 ans de production.
il y a un gros risque financier.
Ça a payé un demi-million d'exemplaires en l'espace d'un mois.
Ah, il mériterait de faire le million.
Oui. J'espère qu'il fera le million. Je trouve que les musiques sont super parce qu'elles sont à la fois
Basiscape.
Et bah, si c'est Basiscape, donc c'est
Hitoshi Sakimoto qui chapeaute.
Et d'ailleurs, sur la version qu'on a reçue, parce qu'on a reçu un code, on avait aussi les musiques en version 16 bits. Les mêmes musiques, c'est super beau à écouter. Et j'ai adoré du début à la fin.
Et stratégiquement ?
Stratégiquement, j'adore le fait que vers 25h, 30h, tout d'un coup, il y a un gap de difficulté.
On peut dire pourquoi ça devient dur.
Le héros
doit traverser plusieurs régions. Et il y a une des régions, c'est la région des hommes bêtes, des hommes animaux. Et ils sont plus forts la nuit.
En plus, il y a les tourelles. Parfois, ils se font des super combos, genre ils sont à 6 sur toi.
Au fur et à mesure, oui, la map s'enrichit d'obstacles et de...
Il y a des pièges.
De hasard, t'as les catapultes.
Il y a les unités cachées dans les bois.
T'as les balistes qui te enchaînent.
Balistes qui te défoncent tes unités aériennes.
Comme vous disiez, toutes les unités bêtes se déplacent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus fortes.
Et t'as des portes.
Si toi, tu n'as pas d'unité bête pour répondre à ce genre d'unité, ou si tu n'inverses pas le temps, que tu peux revenir au jour, ça devient compliqué.
Et juste un truc en termes stratégiques, je pense que peut-être il y a toujours un problème, un truc de temps, c'est-à-dire il y a un impact de temps. On a un temps limité pour finir les maps.
Oui, parce qu'il faut indiquer que le jeu se déroule en temps réel.
Oui. Le jeu se déroule en temps réel.
Avec pause active, heureusement.
La pause active, t'es tout le temps en mode pause pour choisir tes troupes. Et il y a un truc que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y a plusieurs types de maps. Il y a les maps genre de libération. Et ça, tu sais que tu peux faire 4 minutes. C'est une map qui dure 4 minutes. C'est le 3 combats, 4 combats, ça va très très vite. On peut skipper les combats si on veut. On peut accélérer les combats si on veut.
Ça a un respect du temps du joueur.
Il y a des maps de 4 minutes, mais en même temps, il y a aussi des maps d'une heure ou deux heures, une heure et demie peut-être.
Qui sont complètement biscornues, avec différents objectifs.
Avec 5 spots à choper, avec des mecs qui pop.
Des boss qui se téléportent.
Le boss qui se téléporte, il est très très dur. Enfin, j'ai passé une heure et demie.
C'est pas qu'il est dur, c'est que si tu le sais pas, pourquoi il se téléporte.
Mais c'est le seul dans son genre. Ils abusent pas des mécaniques de jeu. Par exemple, à un moment, il faut un bélier pour péter les portes, mais c'est dans 2-3 maps. Je trouve que le gameplay se renouvelle en fonction des régions. Il y a plein de subtilités. Moi, j'ai redécouvert le jeu toutes les 10 heures. Je me disais, il y a cette option.
Chaque région a ses spécificités et ça, c'est vraiment admirable parce que tu finis la première région, tu dis c'est bon, maintenant je connais le jeu. Et là, hop, t'arrives chez les elfes. Ah bah il y a des ronces, il faut éviter les ronces.
C'est un peu le ressenti.
T'arrives chez les dragons. Ah bah chez les dragons.
C'est un jeu qui est vraiment, tu sens qu'il a été testé et retesté parce que l'équilibre. L'équilibre de jeu, le game balance, comme on dit, il est...
Je dois bien admettre qu'il m'a fallu 15 heures pour me plonger dedans. Alors déjà, parce que je ne sais pas pourquoi, j'étais en mode histoire au début. Donc les combats, je les trouvais encore plus faciles qu'ils ne l'étaient durant les 10 premières heures. Mais comme tu le dis, il y a un moment où ça commence à s'intensifier et c'est le moment où tu te dis « Ah tiens, c'est quoi l'icône Bravo ?» Enfin, c'est le moment où tu dis, tu l'avais déjà vu, mais toutes les attaques que l'on voit avec l'espèce de petit diamant qui sont les icônes de bravoure, donc avec les points que tu vas récupérer en conquérant des forteresses, c'est en gros les pouvoirs spéciaux qui sont vraiment déterminants pour la réussite des missions.
Et les items.
Et les objets.
Les objets.
À partir de la 20e, 30e heure, tu découvres les items et tu dis j'en ai besoin.
Mais surtout les attaques de zone, donc que ce soit les puits de flèches, que ce soit les charges qui sont extrêmement puissant
et la météo, si tu leur balances les orages avant qu'ils arrivent et qu'ils perdent 20% de leur force,
toutes les mécaniques de soutien comme tu le dis avec les personnages qui sont les archers, les soigneurs qui vont venir justement soutenir ton unité principale DPS, tout ça va se remettre en place et tu vas, comme tu le disais Daniel, redécouvrir toutes ces mécaniques qui s'imbriquent et qui vont te permettre de passer les défis de plus en plus complexes sans forcément avoir besoin de grinder. On peut grinder de toute façon, c'est ça, le jeu est quand même assez généreux à ce point-là.
Tu peux faire des batailles fantômes.
Si tu grindes, tu pourras toujours y arriver même si t'es pas très bon en stratégie.
Faut signaler aussi qu'il y a 4 ou 5 niveaux de difficulté. Il y a un niveau débutant où tu roules sur le jeu. Il y a un niveau histoire où j'ai joué en mode normal. Les ennemis sont en papier. Le mode normal, c'est celui auquel moi aussi j'ai joué, qui est facile au début et qui, effectivement, comme vous dites, au bout d'une dizaine, quinzaine d'heures de jeu, t'oblige à commencer à t'intéresser aux mécaniques de jeu.
plus poussé. Et après, t'as un mode difficile. Et quand tu finis le jeu, tu as un mode absolument impossible. Enfin, si, c'est toujours possible, mais absolument horrible.
Et non, mais vraiment, il y a plein de bonnes idées. Par exemple, vraiment, c'est un jeu de plein de bonnes idées. Par exemple, il y a le personnage de Joseph qu'on te file au début et qui est niveau 20. Et il gagne pas d'XP parce qu'il est trop haut par rapport aux autres. Toi, t'es niveau 1, 2, 3.
C'est l'archétype de Fire Emblem qu'on appelle le Jagen.
Le Jagen. Et où le mec qui va te carry ton équipe. Et du coup, je me suis dit, ah bah lui, il va mourir. Et en fait, non, il va pas mourir. Il va rester là. Puis à un moment, tu vas le rattraper.
Il va se faire dépasser.
À un moment, tu vas le rattraper et il va gagner de l'XP quand tu le rattrapes.
Et c'est, en plus,
c'est génial comme idée.
Ouais, mais c'est triste parce que du coup, c'est un personnage qui n'est pas. Enfin, le personnage n'est pas très bon au final. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est à son niveau, tu te dis, ah bah en fait, il était juste balèze parce qu'il était niveau 20.
Mais il te permet de vivre les premières heures de jeu de manière
sans trop stresser. C'est-à-dire que moi, je le mettais de côté et puis dès que je me sentais en danger, je le sortais. Ouais, quoi.
Exactement. Mais c'est comme ça que je jouais.
C'est Frédéric dans Fire Emblem Awakening, pour ceux qui n'ont pas forcément cet archétype-là. Il y a aussi tout l'aspect promotion. Parce qu'on peut changer les classes.
Ça, c'est hérité de Shining Force.
Ouais, hérité de Shining Force.
Les tenues des promotions sont super.
Oui.
Sauf les sorcières. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas promouvoir les sorcières parce qu'elles sont moins sexy quand elles.
Ah, elles ont plus d'attirail, quoi. De toute manière, tous les personnages.
Elles remuent moins du bassin. Et c'est ce que j'ai entendu. Enfin, j'ai déjà vu énormément de mèmes.
En tout cas, t'es récompensé par la promotion, même si on va dire faire croître le nombre d'unités que tu peux mettre dans ton squad reste plus important que promouvoir le personnage qui va gagner juste quelques bonus de stats. D'ailleurs, on a des bonus de croissance qui sont indiqués aussi. Donc,
c'est un jeu parfait en mode nomade.
Ouais.
Vous y parlez sur Switch, là. Ouais.
Sur Switch, il tourne parfaitement.
Ou sur Switch ou sur les différents trucs. Il n'est pas sorti sur PC. C'est ça ce qui est souvent les gens VanillaWare, ils disent ah, c'est dommage. Il n'est pas sorti sur PC. Mais vraiment, par contre, il est parfait dans les deux modes. C'est-à-dire, si on veut juste profiter sur un grand écran ou en mode nomade parce que le tactique se prête pas mal à ce genre de jeu quand même.
Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la façon dont ils ont géré le pathfinding, ou en tout cas la façon dont toi tu vas pouvoir manipuler. Souvent on joue à ce genre de STR avec une souris et c'est vrai que quand tu l'as plus entre les mains, c'est pas toujours évident. Là, le fait de pouvoir découper les trajets, alors c'est pas nouveau, mais en tout cas c'est plutôt bien fait, te permet d'avoir cette espèce de... Le sentiment de guider tout ton escouade en simplement quelques petits pointages.
Oui, et puis le personnage et le personnage se signale quand il est arrivé au point.
Exactement.
Que tu peux oublier une unité que tu as envoyée.
Parfois, t'envoies une unité ailée qui traverse tout et tu oublies
même si l'interface peut paraître chargée, elle est quand même très très élégante et elle sait se faire oublier, t'envoyer toutes les bonnes infos au bon moment. Vraiment,
c'est un jeu brillant.
Et puis, tu l'as dit, Pouillot, mais ça c'est très important, respect du temps. C'est-à-dire que tout le temps que tu passes, tu vas jouer. C'est-à-dire, Greg, t'avais raison, les séquences parlées, c'est genre 4 phrases, 5 phrases qui te mettent dans l'ambiance, pas plus, mais tu comprends exactement les tenants et les aboutissants. Et après aussi, les finales, c'est pas genre ça blablate pas pendant des heures, c'est vraiment un respect du temps. Tu peux vraiment avoir juste la vue de la map, tu peux juste te suffire de ça. Ou alors tu peux regarder les animations. Je conseille de regarder les animations parce qu'au moins on sait l'effet de ces personnages. Voilà. Et tu peux passer comme Robot Tyson, tu peux passer en mode accéléré. C'est vraiment.
Et pour les fanatiques de stratégie, tu as aussi les fameux gambits, donc la possibilité de vraiment micromanager, c'est-à-dire donner des ordres très très précis.
Mais tu peux le faire.
Mais voilà, pour dire, tu vas soigner une unité quand elle est à 60 ou 70%.
Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé.
De ta vie, ce genre de choses. Ouais.
Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est que ce qui fait aussi que Unicorn Overlord est un jeu extraordinaire, c'est que la stratégie se déroule sur deux échelles différentes. La première échelle, c'est donc ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est déplacer les unités sur la carte et les faire affronter les unités idoines, c'est-à-dire que les unités volantes sont fortes face aux chevaux, mais les chevaux sont forts face aux fantassins, mais les fantassins sont forts face aux archers, et les archers sont forts face aux unités volantes, etc. etc. Donc il y a ce côté pierre-feuille-ciseau qu'on connaît tous, sauf que c'est pierre-feuille-ciseau, javel, essence, briquet, enfin il y a plein de trucs différents, et certaines unités sont fortes face à deux unités, mais faibles face à trois. Enfin, on se retrouve un peu avec Pokémon où il y a 15 types différents, et ça c'est très intéressant. Mais ça, le premier niveau de stratégie, c'est déplacer les personnages sur la carte, mais le deuxième niveau de stratégie, c'est comme tu l'as dit, créer ces unités sur mesure et leur donner des ordres. C'est-à-dire que chaque unité, chaque personnage dans une escouade possède différents points d'action. Il y a les points d'action actifs et les points d'action passifs.
Les points d'action passifs, c'est ceux qui sont en orange. Et en général, c'est une attaque, un sort, une utilisation. Ça coûte un point actif. Et ensuite, par exemple, une contre-attaque, une protection de bouclier ou un soin automatique, ça coûte une action passive. Et le but, ça va être justement d'équiper des actions actives et passives à certains personnages. Et là, on rentre vraiment dans de la programmation. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des unités à qui tu vas dire, comme tu l'as dit, telle capacité, tu l'utilises s'il y a des ennemis volants. S'il n'y a pas d'ennemis volants, tu utilises telle capacité sur la première rangée. Si, mais par contre, s'il y a un archer à la deuxième rangée, tu fais plutôt ça. Ça, tu l'utilises en premier, booster tes amis, rendre aveugles les ennemis. Et tu peux vraiment, comme ça, réaliser des programmations logiques absolument extraordinaire. Tu peux faire des unités intouchables, tu peux faire des unités qui réagissent plus ou moins à chaque situation. Et ce qui est aussi très fort, c'est que donc la plupart des classes de personnages ont les mêmes capacités les unes que les autres, mais tu débloques aussi des capacités en équipant certains objets.
Ouais.
C'est-à-dire, tu vas, moi par exemple, j'ai un magicien qui est devenu très très fort à partir du moment où je lui ai équipé un bâton qui lui permet de faire une deuxième action gratuite si quelqu'un est en feu sur la map.
Et donc, si tu fais donc, un combo bah, avec un magicien qui fait du feu,
tu lui fais d'abord envoyer une boule de feu, donc tu as une grande chance d'enflammer un ennemi, et à la fin du tour, il va refaire une attaque qui touche un ennemi, mais qui touche tous les ennemis s'il y en a au moins un qui est en feu. Donc tu peux comme ça programmer des combos assez assez intéressants. Tu peux aussi alors
faut vraiment réfléchir aux combos.
Alors évidemment le jeu te permet d'automatiser ça, mais il faut vraiment réfléchir à quelles unités tu mets avec qui pour pouvoir créer à chaque fois des interactions. Alors au début tu as des exemples qui te sont donnés par les personnages du jeu. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que l'aspect tuto du jeu est vraiment très très bien fait, puisque devant chaque garnison, tu vas avoir une ou deux classes et ils vont te dire bonjour, nous on est les archers. Alors les archers, on fait comme ci et on fait pas comme ça.
Très bien vu.
Et donc ils te proposent de faire un combat contre eux, et durant ce combat, tu vas voir les spécificités de l'archer.
C'est un combat test en fait.
Et après, l'archer te dit voilà, comme tu l'as vu, nous on est plutôt fort pour faire ça, mais par contre, on craint ça. Donc si tu nous mets avec telle unité, on va cartonner, par contre, avec telle unité, c'est bof. Et ça te permet, alors au début, évidemment, le combo classique, ça va être de mettre un chaman avec un gladiateur, parce que le gladiateur, il se gère un peu tout seul, il tape les ennemis que tu vas lui dire en priorité, il peut attaquer une rangée d'ennemis. Et le chaman derrière, comme le gladiateur, il se défend bien au début, puis qu'après, il s'affaiblit au fur et à mesure du combat, le chaman derrière va empêcher les ennemis de lui mettre des critiques dans la tête. Tu peux aussi dire au chaman de le soigner si tu lui l'équipes d'un certain objet. Donc voilà, c'est le combo un peu de base, on va dire, mais tu vas ensuite avoir des combos beaucoup plus complexes à deux voire trois unités qui peuvent...
Et il te donne des conseils aussi. Il te dit, celui-là, il fonctionne bien avec un clerc, celui-là, il fonctionne bien avec un archer. En fait, t'es pas lâché dans la nature. Si tu potasses un peu la bibliothèque, enfin l'icône archive, il y a vraiment des conseils pour jouer aussi.
Et il y a des choses qui sont cachées aussi.
Et moi, il y a vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de re-oublier le jeu pour le refaire de zéro avec des nouvelles idées et maintenant avec l'expérience aussi.
Et il faut voir aussi que en plus de ça, chaque escouade va avoir un leader.
Oui.
C'est toi qui choisis qui est le leader.
Ah, et ça, c'est très important.
Et selon le leader que tu mets, l'effet est différent. Si le leader est un cavalier, l'unité va se déplacer beaucoup plus vite. Si le leader est une unité volante, c'est ça qui est rigolo, toute l'unité vole. Donc tu peux mettre trois chevaliers en armure lourde et une jeune fille avec des ailes, toute l'unité va voler. Donc on s'imagine qu'évidemment elle porte tout le monde à travers les montagnes, mais bref.
Mais si tu mets un archer...
Si tu mets un archer, quand une unité à toi attaque et qu'elle est à portée, tu peux l'assister et envoyer des flèches supplémentaires.
Et pareil pour les magiciens qui peuvent assister.
Exactement.
Avec des...
Et les clercs qui peuvent te soigner de loin. Et c'est aussi l'intérêt, c'est qu'une fois que tu as des unités comme ça qui sont, managées par des unités de soutien, c'est-à-dire que par exemple, tu as une unité avec un soigneur en chef de troupe, si tu t'empares d'une tour de guet, ça va doubler sa zone d'influence. Et du coup, tu mets un clair au milieu de ta map sur une tour, bah derrière, le clair va gratuitement soigner tout le monde dès que c'est à leur tour de jouer. Mmh. Et s'imposer comme ça sur le terrain dès le début, c'est très important, surtout dans les modes de difficulté supérieure.
Il faut vraiment prendre les tourelles.
Ouais. Et les catapultes aussi.
les catapultes, mais il faut les esquiver. Mais par contre, les ballasts, là, c'est vraiment, ça peut te flinguer.
Bon, il y aurait beaucoup à dire et sur Unicorn Overlord on a déjà beaucoup dit. On va s'attacher à mettre une note.
Je veux ta note.
Bah, attends, il faut déjà que le fichier apparaisse sous vos yeux ébahis. Écoute, moi, c'est un 8. Un 8 parce que c'est un super jeu, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter que ça. Un peu surpris, après c'est ma faute aussi, je ne me suis pas suffisamment impliqué dès le départ dans toutes les compositions, donc là il faut que je rattrape mon retard, parce que c'était tellement facile que je pensais rouler sur le jeu, et là maintenant que ça commence à se corser, je me rends compte qu'il aurait mieux fallu que je m'appuie un peu plus sur les mécaniques du système pour ne pas me faire à mon tour rouler dessus. Mais ouais, super jeu, super direction artistique, une réalisation bluffante, bravo. Vanillaware, messieurs.
Alors moi, c'est un énorme 9. J'ai même hésité à mettre 10. Mais je mettrais 10 s'il y a un director's cut, parce qu'on sent quand même que le jeu a été fait endetté jusqu'au cou. Il y a plein de choses qui ne sont pas implémentées. Ça se voit notamment, les personnages de l'histoire ne sont pas vraiment différent des PNJ en fait, et ça on sent qu'ils n'ont pas eu le temps de personnaliser trop les héros du jeu malheureusement, et même si c'est un jeu 2D, on sent les galères de budget.
Donc tout englouti, hein,
voilà, je ne mets que 9, mais c'est un énorme 9, et pour l'instant pour moi c'est le jeu de l'année. Vraiment,
les mots sont lâchés. Est-ce que c'est également le jeu de l'année pour Daniel à l'heure qu'il est?
Pour moi c'est chef-d'œuvre,
c'est 10.
Oh, moi c'est 10, c'est un des jeux que j'ai le plus kiffé. C'est un jeu dont je vais me souvenir pendant des années, comme exemple, comme quand je parle de Dragon Force, qui a été pour moi un moment très important de la vie de la Saturne et même de ma vie de joueur. J'adore Dragon Force vraiment, et Ogre Battle, et c'est ce genre de calibre de jeu, c'est ce genre de soins apportés par un éditeur au top de sa forme, et avec une maîtrise complète de son œuvre, c'est-à-dire que ça soit d'un point de vue technique, de sa point de vue surtout de setting, de tout. Le build-up est incroyable, la manière dont la montée en puissance de ce jeu est hallucinante. C'est le premier platine que je me fais de l'année. Vraiment, je suis allé à fond. Hein. Vraiment, j'ai fait les maps bonus à final et tout. C'est un chef-d'œuvre. Et surtout, c'est ce genre de jeu qui est un peu la raison d'être de Super Saiyan Turbo, c'est que jouer à ce genre de jeu, quoi. Alors, c'est sûr, c'est pas un triple A dans le sens du terme, mais pour moi, à notre échelle de jeu japonais, c'est plus qu'un triple A, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Je suis désolé d'avoir tapé sur la table.
Hubert, est-ce qu'on peut revenir sur la feuille de thèse? Parce que je crois savoir, j'ai cru que je me rappelle.
Je me rappelle.
Choc mémoriel. Est-ce que tu as platiné Final Fantasy VII Rebirth? Puisqu'on est obligé de revenir là-dessus. Est-ce que on a laissé en suspens.
Tu veux qu'on revienne maintenant ou
on est sur le tableau. Là. On est littéralement dessus, on est littéralement devant.
Alors, on s'est mis d'accord de parler de Final Fantasy Rebirth, de mes impressions sur la fin, mais sans spoiler.
Oui.
Donc, parce que si tu spoiles, je quitte la table. Voilà. Parce que à cause d'Unicorn, j'ai pas pu finir FF7.
Mais à tout hasard, je dis.
On mettra une balise mini spoil.
Mais après, tu sais, il est sorti il y a 2 mois, j'ai l'impression que c'est sorti il y a 6 mois.
Non, un seul. Ouais.
Un mois?
Ouais. Fin février, le 29 février, souviens-toi.
Ah, c'est vrai. C'est un jeu très complexe à plein d'égards. C'est-à-dire que tout ce qui est l'aspect monde ouvert, et je l'ai trouvé un peu bof. Tu vas monter sur des tours, se synchroniser. Mais par contre, dès que tu rentres dans un tunnel d'aventure, je trouve que le jeu il balance vraiment, ça intéresse de manière vraiment pertinente. Je trouve que comme le précédent, le tunnel de fin est un vrai tunnel pénible.
C'est pénible, carrément.
Ah ouais, c'était un tunnel. Oui, c'était un donjon de 7-8 heures quand même, tu vois. C'est c'est un jeu qui.
T'exagères un peu, mais en tout cas, c'était très long.
Moi, j'ai mis 7-8 heures dans le final, et c'était la même chose dans la tour de Shinra, hein, je peux te dire. Et je ne sais pas du tout où ils vont avec la direction qu'ils prennent là-dedans. Mais je trouve que c'est plutôt joli.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des moments. petit.
La direction, tu veux dire.
Ouais, non. La manière dont c'est écrit, c'est-à-dire que ça aurait pu être vraiment pire.
C'est beaucoup plus subtil que ce à quoi je m'attendais.
Je trouvais que là d'où on venait, c'est-à-dire les mecs en capuche rajoutés. Enfin, c'est-à-dire les mecs en capuche, il y en avait dans le jeu originel, mais ils en ont fait, des kilo-caisses.
Oui, d'ailleurs, petit erratum, hein, ils étaient bien là, bien présents et très, de façon très fréquente. On a rafraîchi la mémoire.
C'est juste que là, ils en ont fait vraiment turbo des caisses. On les voit à la plage pendant que Bidule est en short. Enfin, vraiment. C'est...
Bah, ils étaient positionnés à la plage dans le jeu d'origine.
Oui, bien sûr. Mais
disons que c'est moins frappant quand tu les vois en petit perso 2D
en faisant les zombies.
Et là,
en faisant les origines. Et je trouve que tous les personnages rajoutés, ils sont pas très intéressants. Les mecs en moto, ils sont pas ouf. Enfin, tous ces trucs rajoutés sont pas géniaux. Mais par contre, je trouve que la réécriture de la fin est pas mal. Alors, il y a des choses qui sont moins bien, des choses qui sont meilleures.
On peut pas rentrer dans les détails. Évidemment.
Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que les personnages qui avaient besoin d'être épaissis, muscle ton jeu, tu sais, ouais. Exactement.
Les Robert Pires de FF7 Rebirth. Ouais,
exactement. Muscle ton jeu un petit peu. Je trouve que Kid City gagne énormément. Red est extra dans celui-là. Presque au détriment de Cloud et Iris qui sont et après ils ont déjà été les héros de 30 heures de jeu. Je trouve que si tu mets bout à bout les deux jeux et ensuite le troisième, je trouve que c'est vraiment beaucoup de temps pour raconter quelque chose de si faible. Mais par
syndrome FF13, tu veux dire?
Ouais, un peu. Je pense qu'il y a que FF13 qui compte. Hein, ouais.
Non, tu vois que les thématiques, moi, je les trouve toujours actuelles.
Mais
enfin,
je trouvais que la thématique du premier était intéressante, les bidonvilles. Mais là, c'est pas inintéressant du tout. Ça parle quand même de la militarisation d'un monde qui est sur le point de mourir, en fait. C'est une balade dans un monde mourant, en fait. Et c'est pas inintéressant du tout. Donc, je mets un très bon 8.
Très bien.
Ce qui fait mal dans FF7, j'y repense, c'est que c'est quand même... Tu sais que le monde va mourir, mais c'est parce que tu es impliqué à titre personnel dans sa sauvegarde. Et chaque fois que tu te balades en ville, les gens sont là, oh, c'est cool, on a de la Mako. Ça renvoie vraiment aux gens qui continuent à rouler en 4x4 alors qu'ils disent, ouais, moi, je suis content dans ma bagnole et puis j'emmerde les écolos. Ça renvoie vraiment à ça, et c'est assez paradoxal comme jeu vidéo.
Je tiens à dire qu'à cause de FF7 et des autres jeux dont on va parler, d'Unicorn, j'ai toujours pas fini Like a Dragon, mais c'est le
oui,
bon.
Greg, pas de notes sur Like a Dragon, toujours pas eu le temps, il est passé à la voilà.
T'as vu ce qu'on a à jouer?
On en reparlera cet été, je crois.
Ouais, c'est clair, c'est d'une telle violence, justement.
Toujours sur FF7, j'en profite, vous avez vu que... Ah, tu voulais peut-être le mettre au point news, donc Square Enix a dévoilé sa liste des promotions. Et je sais pas si vous avez vu, donc Hamaguchi, le directeur de FF7, a été promu. Il est board, il est directeur. Il est au board de Square Enix. Là.
Je pense que peut-être on parlera.
Ah bah, je l'ai même pas mis, mais
la
c'est vrai que c'est quand même
montée
en puissance du réalisateur, donc Hamaguchi. Et oui, Tomoya Asano,
qui est maintenant au board.
Octopath Traveler et tout. Ouais. Les jeux,
lui,
genre,
il méritait peut-être moins, mais.
Tu
regardes les ventes. Il a tenté des trucs.
Il y a que nous qui n'aimons pas Octopath Traveler. Ouais. Hein,
mais
on nous remonte suffisamment.
Mais il a fait Triangle Strategy.
Oui,
c'est son chef-d'œuvre.
Le GOTY.
En tout cas, le jeu que je préfère.
Le GOTY qui n'était pas Elden Ring, souvenez-vous, c'était Tsumimasen Turbo, épisode 0.
C'est vrai.
Donc on disait qu'il y avait beaucoup de jeux qui sont sortis durant le mois de mars. Dragon's Dogma 2 est également sorti, c'est un jeu qu'on attendait. Là pour le coup, Greg, t'as moins eu le temps à consacrer.
Ah
j'ai
non,
même pas
j'ai...
le temps de le lancer.
Non, j'ai perdu beaucoup de temps dans le créateur de personnages, et puis après j'ai été rattrapé par l'actu professionnelle, on va dire. Donc j'ai joué 2 heures, j'ai tué quelques gobelins, j'ai tué quelques harpies. Mais à part te dire que je retrouve les sensations du premier et que j'avais beaucoup aimé le premier, je suis pour l'instant très content. Je ne peux pas te dire grand chose de plus parce que je ne suis pas allé assez loin pour t'exprimer quoi que ce soit sur le rythme du jeu, sur sa difficulté. Je pense que je suis encore dans la zone bébé, comme on dit, avec des PNJ surpuissants qui me disent non, c'est par là, étranger.
Qu'il est bon de resituer un petit peu Dragon's Dogma, allez oui, pour ceux qui vraiment découvriraient, mais je pense que tous ceux qui nous suivent.
Juste pour préciser, moi aussi j'y ai joué, oui. J'ai pas autant, pour des raisons, comme je te disais, hôpital, autant pu y jouer que ce que je voulais.
On fera une grosse émission.
On fera une grosse émission récap. Mais j'ai joué 20 heures, hein, quand même.
Je peux dire un truc, c'est que je suis un peu déçu par ce que j'ai joué.
Oui, on va peut-être, justement, ce sera peut-être notre point d'ancrage de cette chronique consacrée à Dragon's Dogma 2. Donc, je resitue Dragon's Dogma, qui est la réponse de Capcom à l'école du RPG occidental, mais façon japonaise, donc on retrouve certains traitements, peut-être les personnages féminins, peut-être aussi...
D'où le succès à l'étranger.
Le succès à l'étranger aussi, ouais. Parce qu'il reprend certains canons qu'on pourrait aller... Ah, c'est difficile de parler de Witcher avant l'heure, mais ou de Skyrimisation du JRPG. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'être au. Voilà. Utiliser un mot qui ne veut rien dire, mais en tout cas, à la croisée des chemins.
Pour toi qui es lyonnais.
Le côté RPG, Heroic Fantasy occidental, avec certains des codes visuels, certains des codes aussi de gameplay, avec un monde plus organique que certains jeux qui sont parfois sur rail. Avec des petites surprises qui peuvent vous attendre au coin et un jeu qui peut se vivre, qui vit un petit peu par lui-même.
Moi, je le, parce que j'aime beaucoup le premier, je le définis comme le Monster Hunter des gens qui n'ont pas accroché à Monster Hunter.
Ah, c'est vrai qu'il reprend plein de codes, les codes de l'école Souls,
les codes combo de Monster,
comme tu le dis, c'est très important, puisque notamment par le fait que énormément de créatures gigantesques avec lesquelles tu peux interagir littéralement, puisque tu peux carrément leur grimper dessus pour viser les différents points faibles. Et ce sont des combats qui peuvent parfois durer pendant 10 à 15 minutes, tellement
oui,
les résistants, il faut l'épuiser, viser les points faibles. Il y a vraiment cet aspect chasse, peut-être un petit peu poussé à son paroxysme dans cet épisode-là. Je reviendrai là-dessus aussi tout à l'heure. Mais oui, je le disais, vraiment le jeu qui fait la synthèse entre deux écoles. Et comme tu le disais, Daniel, toi tu es un peu déçu, on en a parlé un peu.
Je te laisse faire tes impressions avant.
Non, mais on peut dire quand même qu'il réemprunte beaucoup à Dragon's Dogma 1. Un point auquel je ne
m'attendais pas.
C'est-à-dire que 1.5.
Ah ouais,
c'est d'une violence. C'est déjà
1.5.
Le grand principe de base reste le même. Donc tu es l'insurgé, quelqu'un qui s'est fait percer le cœur littéralement par un dragon et qui va essayer de, à nouveau, comme dans Unicorn Overlord, bouter l'usurpateur hors du trône. Sauf que à la différence, tu vas commencer dans un camp de mineurs, tu vas te retrouver téléporté dans un village de départ et tu vas rejoindre la capitale ou en tout cas l'une des villes les plus importantes.
Le début est pas mal, hein.
Wentworth, qui est au cœur du royaume, un royaume beaucoup plus étendu, puisque c'est là-dessus que va jouer Dragon's Dogma 2, par rapport au 1, qui finalement était beaucoup plus circonscrit qu'on le pensait, avec notamment tout un pan de région qui était inaccessible. Là, Dragon's Dogma 2, on a vraiment une exploration qui est gigantesque. C'est vraiment... Et quand on dit que la balade vaut parfois mieux que la destination, c'est réellement le cas du jeu dans ce jeu, puisque ça te permet vraiment d'avoir un champ d'exploration énorme avec plein de petites cavernes, plein de petits chemins détournés, plein de petits chemins qui s'entrecroisent, un rapport à la verticalité qui a largement été surétendu. Et je me suis déjà un petit peu éloigné de mon point de départ, mais tout ça, comme dans le jeu d'ailleurs, mais tout ça pour dire que on retrouve quand même tous les codes du premier Dragon's Dogma et beaucoup de choses qui y font référence. Ça repart du même principe, avec toujours ce premier trajet du village de départ à la capitale où tu vas recruter donc les pions qui vont t'accompagner, tous les PNJ qui seront avec toi et qui vont avoir, comme dans Unicorn Overlord, beaucoup d'interactions entre eux.
Je trouvais ça amusant d'ailleurs que Capcom propose ses propres personnages pour les joueurs débutants,
oui.
Tu vois, au cas où il y a personne qui ait vraiment fait des pions intéressants dès le début, tu as les pions Capcom au début du jeu et ils t'aident bien parce que t'es niveau 1, eux ils sont niveau 8. Je trouvais ça assez rigolo.
C'est le grand principe du jeu, c'est qu'il n'y a pas de multijoueur. Enfin, si, il est un petit peu détourné puisque tu peux prêter les PNJ que tu vas créer au moment du jeu. Au moment du jeu, de la création, tu parlais de création de personnage, tu crées ton propre personnage qui est l'insurgé et le NPC qui lui sera attitré tout au long du jeu qui s'appelle le pion. Et ces pions-là, tu as ceux qui ont été créés par Capcom et tu as ceux qui ont été créés par les autres joueurs et en les recrutant tu vas pouvoir épouser ta propre montée en niveau puisque eux aussi en gros les pions ne montent à part le tien, les autres pions ne montent pas en niveau. Donc tu es obligé de renouveler
de location,
sans arrêt. C'est de la location, exactement.
Et ils coûtent rien s'ils sont du même niveau que toi.
Et de la même manière, toi ton pion va être passivement envoyé dans d'autres univers. Et il va pouvoir revenir dans ta propre partie
plus fort,
avec du butin, mais également une meilleure connaissance de tout l'environnement des lieux. S'il est allé dans une région que tu n'as pas explorée, il pourra te dire « Ah là, je connais une caverne, là, il y a un coffre. » Et il va y avoir des interactions qui vont se créer avec ton propre avatar. Et les pions ensuite que tu vas pouvoir recruter d'autres joueurs, eux aussi vont pouvoir te donner, te livrer plein d'autres informations. Évidemment, chacun a la feuille de personnage attitré, donc tu vas pouvoir regarder quelles sont leurs caractéristiques, quels pouvoirs les autres joueurs leur ont donné, la façon dont ils les ont développés, puisque tu as des hybridations de classes qui sont possibles. Bref, tu as plein de choses qui sont liées aux pions. C'est l'une des mécaniques, si ce n'est la mécanique principale qui distingue Dragon's Dogma du reste des productions Heroic Fantasy, RPG de ce genre. Mais je le disais, ce qui me surprend dans Dragon's Dogma, c'est Dragon's Dogma 2. D'ailleurs, c'est étonnant, à l'écran titre, j'ai l'impression que de dire Dragon's Dogma, il n'y a pas le 2 qui est écrit. T'as l'impression que c'est le même jeu. Mais c'est le même en plus vaste, mais vraiment le même. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout ce qui me rendait fou dans le premier Dragon's Dogma est de retour.
Rendait fou, c'est négatif ?
Ouais, ouais. Ah. C'est-à-dire les PNJ qui ont l'air complètement désincarnés, les PNJ qui parlent au mur, les PNJ qui marchent sur les tonneaux, les PNJ... Les PNJ qui t'oublient, les quêtes qui se déclenchent avec un temps de retard, ou qui se déclenchent pas, ou les mecs qui meurent sans ton... Tout ce côté organique qui, moi, me fait profond...
Est-ce qu'on peut dire aussi
me hérisse profondément les poils, et Dieu sait s'il y en a.
On est sur la version 0.8, quand même, en termes de sortie. C'est-à-dire que le jeu, clairement, il va avoir des patchs.
Ah oui, oui,
ah ouais, non, mais
déjà.
Il y a des bugs
à foison, notamment sur PC, mais même... Je pense que c'est pas sur framerate.
Je pense que c'est quelque chose qui est assez choquant, dans la mesure où... En termes de déroulement pur, tu es un chef d'équipe et vous vous baladez dans un monde ouvert dans lequel vous êtes agressé par des créatures et tu diriges un personnage et les autres se battent à côté de toi. Et effectivement, comme le jeu est beaucoup moins encadré que FF7 Rebirth qui est sorti quelques semaines avant, ben contrairement à FF7 Rebirth où le jeu est très très cadré, où tes PNJ sont justement très importants, très incarnés, ils ont chacun des lignes de dialogue, le jeu a été soigné pour que justement il n'y ait pas de faux pas graphique. Mais du coup, je pense que Dragon's Dogma te paraît très brouillon. Parce que c'est vrai que faut y aller pour que Red 13 soit coincé dans une barrière ou quoi, il faut vraiment faire tourner la caméra. Alors que là, ça a l'air d'être la foire au bug.
Ouais, après, il y a toujours la téléportation. Dès que tu sors du petit cadre de ta minimap, tu vois le PNJ qui se déplace, etc.
Moi, j'ai ressenti ça parce qu'au bout de... Moi, j'ai joué que 2 heures, mais dès les 2 premières heures de jeu, je m'étais fait une... j'avais embauché une magicienne qui était coincée dans des cailloux. Alors elle était là, où êtes-vous insurgé ? Je suis devant toi, mais elle bougeait pas.
Il y a un petit côté des gens qui parlent au vent. C'est-à-dire que t'as l'impression que les personnages ils disent leur truc, mais ils disent leur ligne de manière automatique.
Des champs contre champs, mais c'est l'imagination au pouvoir. Ouais. Dragon's Dogma, c'est vraiment ce qui te fait vibrer dans d'autres jeux avec ce gameplay typé organique, c'est que tu as l'impression que le jeu vit sans toi et que tu n'es qu'un pion dans cet univers-là, qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quel moment. Les traversées de nuit sont toujours aussi effroyables. Mais je trouve que le dosage est beaucoup... Alors peut-être que aussi parce que Dragon's Dogma avait ce côté ébauche et on se disait que ça allait s'améliorer ou en tout cas s'affiner au fil du temps, j'ai l'impression de revoir la même chose, mais en plus grand.
Comme s'ils n'avaient pas appris.
Comme s'ils s'en foutaient, comme si ça faisait partie de la proposition de base, et puis c'est ce que les gens ont kiffé, alors on va vous le redonner en centuple. Il y a un point, ça c'est vraiment un ressenti personnel, il y a peut-être un point plus objectif sur lequel on...
Objectif ?
Oui, objectif. C'est la densité de monstres au mètre carré.
Ah oui, ah oui.
Dragon's Dogma 1 avait quand même, peut-être pour des questions de mémoire, tendance à quand même livrer moins de... à espacer
pas gobelin sur
les
gobelin.
Rencontres. Ouais. Donc tu avais le sentiment d'avoir une exploration peut-être un petit peu mieux rythmée. Tu savais que tu allais avoir ton camp de prisonnier, tu les lattais. Et après, tu pouvais t'établir... Enfin, tu pouvais... T'avais une petite soupape de sécurité, on va dire, tout au long du camp. Là, non seulement ton camp, il peut se faire attaquer de nuit. Bon, ça fait partie du principe. Tu perds tout ton matos.
Tu peux te faire attaquer quand tu prends le chariot aussi.
Ça, c'est pas un problème. Ça rend le monde organique. Effectivement, si tu campes au milieu d'un camp de loups ou d'un camp de gobelins, c'est normal qu'ils t'attaquent à un moment. Ça peut arriver. Ça fait partie de la surprise. Et c'est ça qui rend le jeu aussi palpitant. Mais par contre, que quand tu butes tous les gobelins autour du camp, tu fais 3 mètres. T'en as 12 encore qui t'attendent. Et puis tu les butes et t'as le troll qui se réveille. Et puis tu butes le troll.
T'as le cyclope
qui sort du mur. Parce que le cyclope qui sort.
Les cyclopes, c'est Sengoku. Ils se téléportent partout.
Et après, t'as battu le cyclope. Le griffon atterrit.
La densité de population.
Mais c'est pas possible. Hein, t'en as plus. D'autant plus
ça m'a rappelé Far Cry, tu vois.
D'autant plus que c'est un jeu où les blessures que tu prends vont te grignoter au fur et à mesure ta barre de vie. Ce qui est. Pourquoi pas ? Donc tu vas camper.
Mais du coup, tu vas faire encore des combats qui vont encore t'affaiblir.
Tu vas refaire des combats sans arrêt, qui se jouent tous pareils au fur et à mesure d'un moment. C'est-à-dire que bon, le premier griffon, le premier cyclope, tu le bats, ah, je lui ai mis la flèche dans l'œil, ah, je l'ai paralysé. C'est vachement bien, tu te sens galvanisé. Bon, c'est des tactiques qui existaient déjà dans le premier Dragon's Dogma. D'ailleurs, il y a beaucoup du bestiaire qui est emprunté au premier. Et ça aussi, c'est un point. Bah, si vous avez déjà joué à Dragon's Dogma, il y a beaucoup moins de surprises à taper la Manticore.
Ah, mais c'était il y a 12 ans.
Oui, c'était il y a 12 ans, mais.
Moi,
c'est un
moi,
jeu qui a gagné
moi,
en plus.
Il y a deux mois.
C'est un jeu qui a gagné.
Il y a deux mois, donc je peux comparer les deux expériences. Ouais. Et je pense que sur les, je sais plus combien d'heures j'ai joué, mais sur les 10-15 premières heures de Dragon Dogma 1 sont vraiment mieux que les 10-15 premières heures de Dragon Dogma 2.
C'est normal, t'as tout l'aspect découverte que tu
non,
m'as plus
genre,
parce que c'est
vrai,
pareil.
Même les missions, globalement, sont plus intéressantes dans le sens où tu vois, t'as cette forteresse, t'as une prise d'assaut de forteresse et tu dois trouver ton passage. Ensuite, tu passes par le sous-sol. Je parle du 1. Tu passes par le sous-sol. Ensuite, tu tues les Strum et puis tu remontes par une porte dérobée. Et là, t'arrives dans la cour de la forteresse. T'as pas un cyclope, t'en as trois. Et il y en a un autre en haut. Et il faut que t'ailles. Et il faut que tu choisisses ce que tu fais. Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu fuis pas? Est-ce que les PNJs arrivent à suivre ou c'est des tocards? Enfin, vraiment. Et c'est palpitant. Là, les missions que j'ai sont pas ouf.
Oui, tu peux la mission infiltre-toi dans le
château.
Dans le château de l'usurpateur, mais fais attention parce que tout le monde va te repérer, tu te balades, on te fait non, c'est pas par là monsieur. C'est comme au Japon, tu sais, tu fais ouais, mais Balek et tu continues et tu vas
non, mais il y a des petits trucs rigolos, tu peux te faire arrêter par la
police.
Non,
mais à un moment si tu imposes une condition en disant il faut que tu sois déguisé ou alors il faut que tu sois discret, bah tu rentres pas comme dans un musée, tu vois. Ouais. Enfin c'est étonnant. En fait, d'avoir cette espèce de dichotomie entre les consignes qu'on va te donner et finalement la liberté qui t'est offerte. Et alors tant mieux pour ceux qui apprécient la liberté de gameplay.
Et je pense à notre ami Greg, qui déteste.
Oh, regarde ça, c'est magnifique.
Qui a un vrai problème avec une quête et puis ensuite tu rencontres un autre mec qui dit ah mais j'ai encore ça. Et dans le 2, mais c'est tout le temps ça. T'arrives dans une ville alors que c'est le but de ton truc.
Oui,
et tout d'un coup, il y a un mec à l'entrée de la ville qui dit j'ai mon frère.
Mais
j'ai
surtout,
mon frère.
Il te le dit, il se retourne comme ça. Ah, on peut pas le faire avec le siège, je pourrais le faire, mais bon.
Il y a mon frère Charpentier San qui est perdu dans une grotte. Et tu vas chercher le frère Charpentier San dans la grotte.
Après, on te donne 12 quêtes quand t'arrives dans une capitale.
Et
bon,
alors,
ça te donne le côté foisonnant aussi.
Et hein. Alors, il y a un truc que je déteste plus que tout au monde dans les quêtes de JRPG, c'est les quêtes d'escorte. Et alors, il y en a beaucoup, hein. Et des quêtes d'escorte avec des PNJ, genre, je fais tout le parcours et je fais. Et tu fais tout, et dans les derniers 100 mètres, le PNJ, il se prend un loup et.
Ah ouais, je suis content, ils se sont jamais fait buter
jusque-là. Ou un fossé.
Ou alors, il a disparu. Ou alors, il a juste refait sa vie. Il est allé dire, non, je vais aller voir Charpentier San. Et alors, du coup, je déteste les quêtes escorte. Genre, si je pouvais faire une sélection, je trierais là-dessus. Mais ouais, voilà, je trouve que simplement c'est pas très palpitant. Le début est super, jusqu'au griffon.
Ah, le début où tu comprends pas. Alors, le début, quand t'es dans la mine, tu comprends pas ce qui se passe, t'as interactions qui tardent.
Mais j'aime bien, c'est un petit côté genre où suis-je, un peu très Dark Souls.
Oui,
mais ensuite, du coup, après le griffon, la bataille contre le griffon, c'est vraiment le tout début. Hein. Et après la bataille, et après là, tu fais bon. Et puis au fur et à mesure le jeu se développe et le jeu se développe pas de manière très intense et là je dois juste dire que j'ai parlé à des gens qui l'ont terminé et en fait il y a pas tant de contenu, enfin ils m'ont dit où j'en suis machin, je fais mais en fait il y a pas tant de contenu.
C'est vrai que si tu le fais en ligne droite ça va très très vite.
Ça peut aller en 20 heures.
Mais c'est pas le but.
C'est pas le but, nous on est là pour
perdre. Et alors justement
on est là pour squatter.
Je n'étais que
j'adore quand tu dis ça.
Je n'étais qu'aigreur vis-à-vis de Dragon's Dogma 2 pendant les 10 premières heures. Et puis, donc c'était samedi dernier, on me confie une quête qui consiste à aller tout au sud de la map. Je me dis, bon, bah écoute, quitte à bosser pour Subnacent Turbo, je vais
bosser,
explorer.
Je vais bosser pour
et là,
Dragon's
les cocotiers.
Et alors, déjà, tu as un nouveau biome qui s'ouvre dans Dragon's Dogma, c'est déjà la panacée. Mais surtout, j'ai pris un plaisir immense pendant 5 heures à essayer de regagner toute cette région-là. À traverser, à découvrir toutes les cavernes qui m'étaient présentées, tous les chemins alternatifs. Parce qu'en fait.
Ah, t'as fait vraiment la rando.
La rando. En fait, il y a un village étape où la grille est baissée et où le mec me dit non, t'as pas le droit de passer, t'as pas laissé passer. Bon, déjà, j'ai buté le mec en me disant peut-être ça va ouvrir la grille magiquement, mais ça n'a pas fonctionné.
Non.
Donc, déjà, c'est possible de tuer le mec, donc ça, c'est toujours sympa. Et.
Comme à la Fnac, quand
en fait, en regardant la mini-map, tu t'aperçois que t'as un petit filet d'eau qui passe sur le côté. Donc, j'ai pris ce filet d'eau et ça m'a emmené dans une caverne avec plein d'hommes lézards que j'ai tous butés. Et ensuite, je suis sorti. Et là, paf, c'est comme FF7 Rebirth ou Elden Ring. Tu ouvres la caverne et t'as toute une étendue désertique qui s'offre à toi. avec bah tu descends, mais en plus comme il y a toute une verticalité, faut pas que tu tombes sur le mauvais caillou, donc tu regardes quel chemin tu vas pouvoir emprunter pour pas t'éclater la tête sur le rocher en contrebas, et puis t'aperçois le gros dragon, tu t'enfuis, lui tu
peux là c'est excitant, là
c'est puissant, et après hop tu longes tout ça, t'as le téléphérique qui apparaît, mais est-ce que tu vas prendre le téléphérique qui est bien gardé, ou est-ce que tu vas plutôt faire le petit sentier, mais le sentier t'as le village de gobelins qui est hyper, une forteresse hyper chargée, et à la fin j'ai enfin réussi,
ça a l'air bien Tears of Kingdom quand tu le racontes,
j'ai enfin réussi à gagner le village du désert, je me suis dit ah quand même, il y avait un petit là mon palpitant a palpité.
Mais t'as réussi.
Ça, après 5 heures de trajet, j'arrive enfin.
Est-ce que tu penses que t'étais supposé y aller déjà, ou est-ce que t'as un peu triché?
Attends, je crois qu'il sourit.
T'as un peu blousé le jeu.
Je crois qu'il y a un twist dans l'histoire.
Et là, dans les deux premiers villages, j'avais ce qu'on appelle un porta-cristal. Porta-cristal, c'est
comme
le
1.
C'est le petit élément central. On sait que le voyage rapide est conditionné dans Dragon's Dogma.
C'est un vrai problème. Hein.
Tu n'as pas un fast travel gratuit. Il faut avoir un portail de destination et également des cristaux qui te permettent d'activer le voyage rapide. C'est vraiment compliqué. Et là, je fais le tour du village. Parce que, en fait, comme je me suis aperçu que la mission que j'avais faite, je me suis trop avancé. Mmh. En fait, on m'a renvoyé aux missions du départ, donc qui étaient dans la capitale, mon village de départ, celui que j'ai mis, qui est à 5 heures de distance finalement.
Et là, flemme.
Je me dis, bon, bah.
Flemme de traverser le continent, j'imagine.
Même si je me suis aperçu après qu'il y avait un petit chemin détourné un peu plus rapide que les 5 heures, on va dire une heure au bas mot, c'était possible. Et puis, de toute façon, en tournant, j'avais gagné 15 niveaux. Donc, quoi qu'il arrive, je suis un peu plus costaud que je ne le suis. Donc, les ennemis fondent au fur et à mesure. En plus, je joue archer, donc archer, c'est bien. Et
tu joues archer, toi?
Ouais. Et je me dis, il est où ce porte-à-cristal? Et je le vois pas. Puis, je le vois pas pendant une heure. Donc, je me dis, merde. Je tape. Pardon. Zut. Je tape porte-à-cristal Dragon's Dogma 2, le nom du village qui est en bas. Et en fait, c'est le seul. C'est le village où il n'y a pas de porte-à-cristal.
Donc il faudra que tu te retapes tout le chemin.
Donc soit j'ai plusieurs possibilités, soit je me retape tout le chemin, ce qui est ce que j'ai fait, hein, une heure et demie. Soit j'accomplis une quête extrêmement difficile qui consiste à buter les dragons de la région environnante pour récupérer les pierres de cristal de dragon. Il en faut 20 pour acheter un porte-à-cristal. Sachant que je crois que t'en récupères une dizaine sur chaque dragon, et les dragons pour l'instant j'ai même pas réussi à leur enlever la première barre de vie.
T'as pas l'option acheter le DLC pour avoir
soit
un DLC pour porte à
cristal. Je passe par le PlayStation Store et pour 2,99€ ce porte à cristal qu'on m'aurait confié si j'avais fait toutes les quêtes de la capitale, j'en aurais eu un gratuit.
Ouais.
Mais là il faut que je remonte jusqu'à la capitale pour les faire. Si j'ai la flemme, si je cède à la pression, pour 2,99€, je peux avoir mon petit porte-à-cristal dur.
Alors, moi, j'allais dire...
que t'as payé.
Non.
J'allais dire...
J'ai hésité. Mais c'est ça, le problème, c'est que j'ai hésité.
Mais est-ce que 2 heures de ta vie valent 2,99€? C'est ça, le...
Ouais, je sais pas trop. Ça dépend lesquels.
Tu te souviens, la pub 1 heure de Zelda, c'est 1 franc.
Mais ce qui est certain, c'est que cette incitation au DLC, quand même, elle existe. J'y ai été confronté, je pensais pas.
Je pensais pas que ça allait
parce que j'ai lu tous les tests, on m'a dit, oui, non, mais en fait, on t'en confie beaucoup. C'est vrai qu'on t'en confie beaucoup si tu ne sors pas du cadre qui est prévu dans le jeu, et t'as pas de raison d'en sortir, en final. Mais si tu veux commencer à t'aventurer et à faire toute cette distance-là, là, tu te fais un peu ken. Après, bon, je te dis, 1h30, tu reviens à la capitale, et finalement, le temps est passé, et puis t'as pris des niveaux, et puis...
Puis t'as kiffé la
randonnée.
Et là-bas,
la balade valait le coup, tu vois. C'est comme quand tu vas, on dit, va au sommet de la montagne, finalement...
C'est le genre de truc que je fais.
Mais j'ai quand même kiffé ces 5 heures-là. Je pense qu'elles resteront gravées dans cette année de jeux vidéo. Donc, je suis à la fois partagé en me disant que tout ce qui me rebute est toujours là, et je comprends pas que ce soit toujours là, mais tout ce qui fait l'attrait de la licence, ce côté très organique, ce côté voyage, ce côté expédition, ce côté ton campement se fait attaquer, ça fonctionne encore. Donc, en attendant de le finir, si je le finis, je trouve que...
Ah non, mais il faut que tu le finisses.
Il maintient quand même cette espèce de côté hasardeux, de côté complètement... exogène à toi, au joueur.
Moi, c'est ce que j'aimais dans le 1, en fait. C'est que ce que tu racontes, c'est une aventure ratée, mais dans le sens où tu fais une partie de Donjons et Dragons avec tes potes sur la table et t'es parti dans la mauvaise direction. Et du coup, tu perds une soirée. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de jouer à un jeu de rôle sur une table avec des amis. C'est que ça peut partir dans tous les sens. Et c'est ce que j'aimais énormément dans le premier Dragon's Dogma, c'est qu'au final...
l'histoire n'était qu'un prétexte à se perdre et à découvrir un écosystème qui, pour le coup, si on joue au jeu de rôle, et notamment à Donjons et Dragons, est délicieux. C'est-à-dire que moi, j'aime me perdre dans Dragon's Dogma parce que les monstres, c'est des monstres que j'ai lus dans les manuels du monstre. Et ils sont magnifiques.
Ouais.
Y a vraiment soin apporté aux monstres qui est fabuleux. Et puis, c'est des monstres classiques. Donc, si tu les connais, tu prends du plaisir. Moi, dès qu'il y a un orque qui apparaît, dès qu'il y a un troll, un cyclope, un griffon, ce que tu veux, moi, je suis en pamoison. Je suis là, ah, c'est génial. C'est comme dans les livres que je lisais quand j'étais ado.
C'est très compendium ADD, quand même. Hein, ouais.
Bon, quand ils apparaissent à tous les coins de rue, par contre...
C'est pour ça que je veux plus jouer au jeu pour me faire un avis un peu plus définitif. Mais en tout cas, j'ai un biais positif vis-à-vis de Dragon's Dogma de par son univers et de par la manière dont on y joue. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas de me perdre. Parce que ça me rappelle justement... Je pense que c'est un jeu qui essaye d'émuler une partie de jeu de rôle.
Mmh. Dans les trucs positifs, je trouve que le moveset sont vraiment mieux que dans le 1. Dans le sens où moi, je joue guerrier magicien. Et il y a vraiment des trucs assez créatifs que tu peux faire avec les techniques et tout. J'ai l'impression plus que dans le 1, mais je dis le moveset est plus intéressant, mais par contre il est plus limité parce qu'avant tu pouvais faire deux techniques latérales et maintenant t'en as plus qu'une. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé.
La limitation de poids, hein, rapidement, c'est quand même l'une des idées les plus pénibles du jeu vidéo moderne.
Ah bah après les armes qui cassent, oui, c'est le truc le plus horrible.
Il y a beaucoup de jeux qui ont été cassés pour moi, genre Witcher.
Après c'est
Witcher,
logique.
Tu cours et tout d'un coup t'as un gramme en trop et là tout d'un coup tu marches.
Et voilà. Ton pion peut te servir de mule.
Ouais, t'as ça aussi dans Elden Ring. Hein.
C'est quand même, bien sûr.
Ouais, mais là, je la trouve qu'elle intervient très rapidement. Et en plus, en fonction de la physionomie de ton personnage, elle peut. Voilà, si t'es un personnage frêle et petit, sa limitation de poids va être beaucoup plus réduite.
C'est une grosse
incidence. Évidemment, sa hitbox sera plus mince, mais quand même, c'est. Je pense que le gain d'encombrement vaut pas ce genre de choses.
Et en fait, après chaque excursion, tu dois vider ton sac.
Ouais.
Parce que sinon, t'es foutu. T'es vraiment, genre, il va te faire au bout de 20 kilos, t'es foutu, quoi.
Bon, bref, on aura l'occasion de revenir peut-être sur Dragon's Dogma 2.
Dans la réalité, marcher avec 20 kilos, c'est pénible.
À la prochaine émission, temporairement, je mets un petit 7. Petit 7 à la lisière du 6. Non, un 6. Un gros 6. Voilà.
C'est dur, 6.
Bah, oui. Peut-être qu'il va changer d'avis.
Peut-être que je changerai d'avis. On va dire que pour l'instant, j'avais mis 6 à l'époque à Dragon's Dogma, premier du nom, parce que tous ces aspects me rebutaient. Allez, on va dire que le framerate fait chuter à 6. On a encore tellement de jeux à évoquer. Rise of the Ronin, on va passer autant de temps, je ne sais pas. Hein.
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur Rise of Ronin.
Moi, je n'ai pas joué, donc.
J'en suis loin.
Qui est l'open world de Team Ninja.
Ouais.
Donc le studio de Nioh et de Ninja Gaiden entre autres et de Dead or Alive Extreme Beach Volley.
Est-ce que tu te souviens ce que je t'ai dit quand j'ai commencé à y jouer?
C'est le Extreme Beach Volley de Elden Ring.
Non, j'ai dit c'est un jeu à 2000% pour moi.
Ouais.
J'ai dit c'est quand même dommage qu'il arrive dans une période où j'ai 2000% pas le temps de squatter. Et pourtant je suis complètement addict à Rise of Ronin, donc qui se déroule pendant le Bakumatsu. Et qui apporte un fétichisme très certain, limite Ubisoft, dans l'utilisation historique de ces personnages, puisqu'on a une charte très précise de tous les persos, et c'est que des personnages historiques, et ça, Greg, ça tu vas aimer, parce que c'est exactement ce qu'on avait au programme de licence de japonais, et souviens-toi quand on faisait des exposés sur Fukuzawa Yukichi et tous les autres penseurs, hein, parce qu'on avait un cours de philosophie japonaise, Greg et moi. Et c'est dans mes veines. C'est génial parce que c'est un jeu qui s'amuse avec l'histoire et qui en même temps n'oublie pas que tuer avec un sabre est le truc le plus rigolo quand même dans un jeu de samouraï. Donc c'est les deux aspects que je cherche le plus dans un jeu historique, c'est s'amuser avec l'histoire, avec des personnages, de tuer de manière rigolote.
J'ai une question quand même.
Sortez pas ça de contexte, s'il te plaît.
J'ai une petite contradiction, un petit lièvre.
Ouais, vas-y, balance.
tu viens de me dire ah ouais, le monde ouvert de FF7, c'est basique, c'est Ubisoft, c'est pas ouf.
Non, j'ai pas dit c'est Ubisoft. J'ai dit que c'est moins bien même, parce que c'est genre tu montes
et
dans des
là,
tours.
Et là, on te met un sabre, on te met de la découpe, on te met de la garde parfaite, et tout de suite ça s'illumine.
Bah c'est toute la subjectivité de. D'abord, je pense que les combats sont super dynamiques. Alors ils sont pas Sekiro. C'est pas non plus Nioh, mais c'est entre. D'abord, il y a un truc qui est très important par rapport à Nioh, c'est que Nioh pour moi était un petit peu gâché par toute la gestion de l'inventaire.
Oui.
C'est l'inventaire qui était permanent, et là, t'as presque autant de matos, mais la limite de ton matos est débile. Genre, tu peux, voilà, tu vois le chiffre en bas, il y a marqué 2000.
Oui,
tu peux
vrai.
Porter 2000 trucs. Genre, faut le remplir.
Dans Dragon's Dogma, c'est fini.
Pour
hein,
le remplir,
tu t'avances même plus, quoi.
Faut arriver à la fin du jeu. Et là, c'est pas grave. Tu les as dans ta poche. Il y a des aspects non réalistes qui simplifient le jeu et qui te le rendent plus agréable. Il y a un grappin débile à la Sekiro.
Oui. Qui ne peut grappiner que les endroits prévus.
Voilà, mais il y en a un
grappinable.
Mais il ouais. y a, tu peux grappiner dans la maison des plaisirs. Tu peux grappiner là-dedans pour aller monter directement au deuxième étage. Et là, regarde, c'est une petite séquence d'infiltration où tu dois prendre en photo les hommes politiques qui sont avec des.
Ah, il y a des photos.
Des, voilà, il y a un appareil photo. C'est très important parce qu'on est au Bakumatsu, donc c'est une période dont on a déjà parlé dans notre précédente émission, Greg, mais maintenant il faut en reparler. C'est l'époque des navires, des bateaux noirs, des Kurofune qui arrivent au Japon et qui forcent le Japon littéralement à ouvrir ses portes. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir deux factions ennemies, les pro-shogunats et les anti-shoguns. Les anti-shoguns qui sont pour la restitution de l'empereur, c'est ce qui va arriver dans la réalité. Et donc, c'est une période historique géniale, passionnante, et dans laquelle tu peux prendre parti. C'est-à-dire, tu peux prendre parti, mais tu peux jouer les deux tableaux. Hein. Je joue les deux tableaux constamment parce que j'ai pas envie de me mettre mal avec Fukuzawa Yukichi.
Tu tues tout le monde.
Et donc, Fukuzawa Yukichi, qui est un des plus grands penseurs japonais, ultra respecté, qui est un des grands modernistes de l'histoire, et en même temps tu montes des massacres à la sabre, parfait, un des grands modernistes de l'époque, qui a littéralement fondé l'université japonaise, et ben en même temps il te demande des trucs du genre est-ce que tu peux récupérer du poison fait avec du fugu parce qu'on veut faire des tests avec du poison, genre, et tout d'un coup il t'accompagne avec son sabre alors que c'était pas un grand combattant, tu vois, c'était un philosophe plutôt. Et sa manière de jouer avec les personnages historiques, puisqu'on retrouve exactement, on retrouve à peu près le panaché qu'on avait dans Ryuga Gotobushin, mais peut-être moins caractérisé, c'est-à-dire il y a vraiment beaucoup plus de persos, donc ils ont moins de temps, mais il y a Ryoma Sakamoto, ensuite il y a le Shinsengumi qui apparaît, au début t'as Yokohama, mais ensuite tu vas dans Edo, et, pardon, excuse-moi, c'est vrai, je tape pas, désolé.
On va mettre des petits coussins autour de toi.
C'est vrai, je vais mettre des coussins. Mais ça, c'est vraiment Uber, hein, sinon vous l'entendez pas. Et donc voilà, il y a des trucs très pratiques en termes de gameplay. Par exemple, il y a le grappin, mais il y a aussi l'aile volante qui est très utilisation très Zelda. Et c'est vrai que t'as des maps où tu
avec des petits points comme on le voit à l'écran,
points,
ouais.
Et des petits objectifs à remplir.
Les petits points rouges, c'est des méchants.
C'est
du
des
genre,
camps de méchants.
C'est des camps méchants et il faut les exterminer jusqu'au dernier. Il y a des rebelles qu'il faut essayer de choper sur la map. Il y a aussi, Puyo, il y a des chats.
Il y a des chats, bah oui. Est-ce que c'est pas...
C'est les renards de...
C'est les renards de Tsushima. Bah, ouais. Il y a forcément... On a
c'est l'ami des chats.
10 minutes avant d'évoquer le sujet qui...
Les
fâche.
Chats
fâche.
Ça fâche, Tsushima?
Non, pas du tout, mais...
Les chats sont moches, c'est
Rise
ça
of the... Rise of the Ronin est un petit peu la réponse japonaise à Ghost of Tsushima, quelque part.
Je trouve ça beaucoup plus intéressant que Ghost
ah ouais
of Tsushima. Ah, mais alors...
Parce que pour la plupart des gens, c'est un sous Tsushima.
Ah, mais alors, moi, personnellement, je trouve ça 10 000 fois plus intéressant.
Ah bon, et en quoi alors?
Mais parce que l'histoire, les personnages historiques, alors que... Ghost of Tsushima, il quand même.
Bah, Ghost of Tsushima, c'est une histoire
historiquement.
Mais non, mais non,
c'est
mais
validé aussi.
Il y a très très peu d'interactions en fait. Si tu regardes, il y a juste le rival. Si tu regardes, moi j'ai platiné Ghost of Tsushima, donc je connais l'histoire de Ghost of Tsushima et ça se déroule sur une île un peu éloignée. Là, on est en plein Yokohama. On rencontre Fukuzawa. On peut faire équipe avec le Commodore Perry, le mec
oui, moi,
qui a ouvert le Japon.
Gameplay du coup.
Ah alors le gameplay.
Tiens.
Non mais le gameplay, il est entre Sekiro et Nioh. Tu vois, c'est un peu et c'est très facile d'accès et toutes les armes se jouent différemment.
C'est important parce que quand même Team Ninja c'est entre guillemets l'école du gameplay.
J'adore le gameplay de ce jeu, j'adore découper les mecs avec avec un sabre, mais en même temps t'as une deuxième arme qui est aussi que tu peux booster. Quand tu rencontres une figure historique et que tu te mets ami avec elle, il va t'apprendre de nouvelles techniques. Genre par exemple si tu rencontres un ninja, il va t'apprendre la prise des ninjas. Donc, t'as 8 prises, 10 prises différentes différentes pour le
des gardes
différentes pour le katana, mais t'as aussi le fusil baïonnette, et le fusil baïonnette c'est plutôt les occidentaux qui connaissent le maniement. T'as les gros sabres, t'as les t'as les lances, t'as vraiment plein de trucs. Il y a l'arme à feu et c'est excitant parce que c'est une période vraiment intéressante du Japon où vraiment c'est-à-dire que la modernité vient aussi par les armes, et tu sens que c'est les dernières années du sabre, et c'est si tu t'intéresses à l'histoire, c'est vraiment jouissif. Si tu t'intéresses à l'histoire, c'est vraiment, je prends mon pied à jouer à ce jeu, à faire les missions. Je fais des missions une par une, j'en loupe pas une seule.
Il y a deux voire trois éléments qui m'ont surpris à titre personnel. Déjà, le premier, c'est l'emphase sur l'infiltration. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus dans une typologie à la Tenchu.
J'allais le dire, est-ce que c'est pas un peu un héritage ?
Si, complètement. Je pensais pas que ça jouerait autant la carte de l'infiltration qui est vraiment récompensée. Alors Sekiro le faisait aussi, bien sûr. Je pense que Sekiro...
Mais s'infiltrer dans Sekiro, c'était compliqué.
Ouais, mais ça te permettait quand même de...
Au mieux, tu pétais une barre supplémentaire
à un boss.
C'était
pas rien, une barre dans Sekiro, quand même.
Ça, pour toi, oui.
Pour tout le monde. Oui, vous faites les darons, là.
J'ai rien dit.
Mais donc déjà cette emphase sur l'infiltration, cette emphase sur le fait d'instancier les missions, c'est-à-dire que
les missions instanciées,
l'héritage de Nioh, il se fait là, évidemment t'es libre d'aller venir à ta plein de campements, mais il y a des moments où tu vas démarrer une mission très linéaire dans une forme de petit couloir où tu vas pouvoir
dans un château en général ou un bateau
recruter des PNJ, et ça je m'attendais pas à ça et je trouve ça cool. En vrai, je trouve qu'il y a plein de gens qui reprochent ce côté un petit peu trop figé. On se dit pourquoi tu peux pas aborder la situation dont tu veux, ou entrer dans le château de la façon dont tu veux, mais je trouve que ça donne un petit peu plus de piquant, déjà parce que t'as des PNJ qui vont être avec toi et tu vas avoir un boss à l'arrivée. Ça redonne un côté un petit peu Nioh qu'on pourrait risquer de perdre avec évidemment j'aime beaucoup Nioh 1, parce que Nioh 2 je le trouve beaucoup trop difficile, mais je m'attendais pas à ça et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, même si dans la logique d'un open world je comprends que ça fasse tiquer. Et le troisième aspect, je m'attendais pas à ce que la garde soit autant mise en avant. Je pensais que, étant donné qu'ils allaient baisser la difficulté...
La garde et le contre, ouais.
Le contre. On pensait que ça allait être ni au moins, ce qui est quand même vrai, parce que le jeu est beaucoup plus accessible quand même, mais néanmoins...
Ah, c'est vraiment se manger...
Moins dur que Nioh et moins dur que Wolong.
Non, mais Nioh, tu mourrais.
Oui.
Et là, c'est plus rare de mourir quand même. Mais je joue en normal.
Tu peux pas faire n'importe quoi quand même. Et pour vraiment faire des dégâts, t'es obligé d'appuyer dans le bon tempo sur triangle pour réduire la jauge de posture des adversaires.
Mais t'as beaucoup de vie, hein.
T'as beaucoup de soins. Tu peux, avec le système d'arbres de compétences, débloquer le nombre de potions que tu peux équiper par défaut. T'as un à deux personnages qui t'accompagnent et tu peux zapper, switcher de personnages. Au départ, tu commences d'ailleurs avec un PNJ à toi qui est le lance-shot.
Tu peux être shoté facilement.
Ça fait beaucoup de dégâts. T'as plein de loot que tu peux optimiser. Donc, t'as quand même beaucoup plus d'armes qui te sont données. Alors, je sais pas si la difficulté... Il me semble que la difficulté augmente d'un coup significatif, là aussi, quand tu passes une certaine étape.
C'est ce qu'on
m'a confié.
Ouais.
Mais quelqu'un qu'on connaît bien, qui est blond et qui bosse sur une émission à titre japonais...
Alors, tu sais que je l'ai délivré.
Ah.
Puisque, en fait, tu croises des autres joueurs et ils sont parfois les PNJ. Genre, il était dans une base des méchants. Elle s'appelait Gotoz. Et elle était attachée et je
c'est
l'ai.
Beau, ça.
Elle s'appelait Gotoz et je l'ai délivrée.
Parce que tu peux créer ton personnage. Hein.
Ah, ton personnage est une création.
D'accord.
Ton deuxième personnage aussi est une création, puisque tu contrôles des lames jumelles, comme on dit. Il apparaît dans les parties des autres, quoi.
Cela dit, je dis que le jeu est beaucoup plus accessible. Le premier combat sur le navire, je pense que si tu t'attends à avoir un Tsushima-like, T'es pas prêt, hein, le premier combat.
Ah, mais tu peux le gagner. Oui, tu peux le gagner. Oui. Tu peux le gagner, mais au début.
Ah bah t'es obligé d'en gagner un des deux.
C'est le premier boss de Armored Core 6. Il va faire le tri.
En tout cas, il t'oblige à.
C'est pas du tout la difficulté From, c'est pas du tout la difficulté Nioh et tout ça. Moi, je trouve.
Est-ce que c'est la difficulté Ninja Gaiden? Non.
Non, non, oui, beaucoup... non, c'est moins. Moi, en tout cas, j'ai aucun problème de difficulté avec ça. Je trouve un truc, mais après, c'est un truc de budget et de finition. Je trouve que, et ça, c'est perfectible, mais peut-être que, tu sais, c'est le fameux débat sur l'IA. Les IA sont pas ouf. Et en même temps.
Les ennemis ou les amis?
Les ennemis. Et en même temps, tu sais quoi, si tu fais une IA trop performante, le jeu est jamais très drôle, en fait.
C'est le principe de Tenchu et de l'infiltration à la Tenchu.
Et là, par exemple, en termes d'IA, genre, tu peux envoyer un coup de feu dans une base. Ouais. Et personne ne l'entendra.
Le problème, c'est qu'ils oublient tout, quoi. C'est-à-dire que si tu t'en vas, t'as buté 12 mecs, t'as snipé 12 mecs.
Oui, c'est un peu
MGS. Tu t'en vas, tu reviens et t'en tous oublié. Ça, c'est
ils t'oublient assez facilement, mais surtout, le coup de feu n'est pas pénalisé alors que normalement.
Il y a un côté très rétrograde dans le jeu. J'ai lu beaucoup de tests qui lui reprochent des graphismes PS3.
Alors, oui.
Voire PS4 Plus.
Non, entre PS3 et PS4 Plus.
C'est pas la même chose, PS4 et PS3.
Oui. Moi, je trouve. À partir du moment où c'est fluide, j'avoue que je suis prêt à excuser beaucoup de choses.
C'est très fluide, mais en fait, ça se voit surtout en termes de, tu vois, la représentation des personnages. Tu vois, Yakuza Ishin, enfin Ryuga Gotoku Ishin, les personnages, ils sont tous modélisés super, et les séquences, même pas les séquences 3D, mais les séquences pures de discussion, ils sont quand même très très beaux.
Là, on est dans le champ contre champ avec des visages.
On est Tsushima, on est dans le Tsushima avec la caméra vue de loin, parce que c'est des histoires de budget. Mais honnêtement, moi ça me va complètement, et je trouve que les dialogues, ils sont très très drôles. Ryoma Sakamoto, il est hilarant. Alors il y a aussi un truc qui a peut-être, je sais pas si ça a choqué, mais en tout cas vu que le jeu est pas vendu en Corée, il y a des raisons à ça. C'est qu'en fait, et ça avec Greg, ça nous rappellera nos cours de civi, mais tous les gens représentés sont des nationalistes, en fait, ou à très rares exceptions, il y a quelques humanistes, mais globalement, si tu prends les anti-shoguns, c'est que des gens qui sont là pour mettre les barbares hors du Japon, et les barbares, c'est les étrangers. Ce qu'on appelait souviens-toi nos cours, Sonojoi, qui veut dire vénérer l'empereur et expulser le barbare, expulser l'étranger. Enfin, c'est vraiment le cœur de ce qu'on a étudié et d'une histoire passionnante, mais qui en même temps t'entends des trucs du genre de l'ordre du racisme.
Ah, t'as coupé une tête.
Oui. T'entends des trucs de l'ordre, c'est vraiment raciste, hein, mais c'était cette époque. Et il faut accepter aussi de jouer quand même sur les deux tableaux, c'est-à-dire tu peux jouer aussi être le pote de Mathieu, de Perry, du Commodore Perry, ou alors...
Mais t'as un collabo.
Tu peux être pro-shogun, quoi. Mais pro-shogun, Fukuzawa Yukichi était pro-shogun. Tu peux jouer sur les deux tableaux, et les deux tableaux sont pas resplendissants, et je peux comprendre que en Asie du Sud-Est, on n'ait pas envie de jouer à ça. Et là, par exemple, il y a un philosophe qui s'appelle Shoin, qui se fait d'ailleurs, qui meurt, hein, parce que c'est l'histoire, il va mourir exécuté. Ce mec-là, il parlait de la grande Asie, le grand Japon, la domination sur la Corée, tout ça. Je peux comprendre que il est très très mauvaise. Le seul truc, c'est que
les Français en rouge là.
Seul truc, c'est que tu peux pas satisfaire tout le monde en faisant un jeu historique comme ça. Ubisoft, ils le font tous les ans, et tu peux pas être, tu peux pas faire un truc ou un jeu où t'es foncièrement bon avec tous les éléments historiques, quoi.
Pour terminer, pour conclure le chapitre sur Rise of the Ronin,
c'est hilarant, c'est vraiment un jeu très, très drôle.
Comme tu le disais, très mécanique.
Ouais.
Avec beaucoup de systèmes qu'on a déjà vu et revu, une technique qui est forcément pas au bout du jour.
Un menu best-of Team Ninja.
Ouais,
mais tu restes chaud.
C'est du Team Ninja.
Tu veux vider la map.
Ah, mais moi je
Tu videras la map. Cette map.
Je platinerai ce jeu, et en plus, parce que j'aime ce jeu, et il y a en plus un truc qui est vraiment cool, c'est que tu peux revivre, au bout d'un moment, tu peux revivre les éléments du passé, et donc vivre, par exemple, j'ai choisi par exemple de pas exécuter 2-3 personnes clés, parce que je me suis dit, tiens, c'est normalement, je l'exécute d'après l'histoire, il devrait mourir, et parfois ça change pas, et on te montre le pourcentage de gens qui le fait ou pas, très personnel un peu là-dessus, et tu peux revivre et le vivre sous un autre angle, choisir une autre étape ou alors faire des missions que t'as pas fait. C'est si tu t'intéresses à l'histoire du Japon, c'est un must.
C'est la règle de Famitsu Miyasen. Toutes ces belles paroles vont être synthétisées dans un chiffre. Et ce chiffre, Daniel, c'est lequel ?
Ah, c'est un 8 coup de cœur.
8 coup de cœur.
Ouais. C'est un vrai coup de cœur. J'adore ce jeu. Je pense que ça sera dans mon top de la fin d'année, c'est sûr et certain.
Très bien. Le rendez-vous est pris. Ce sera un 7 plus. Un 7 pour moi, parce qu'il y a quand même un côté très redondant.
Ah, t'as mis 7 à Princess Peach, là.
Ah, c'est...
ça spoil. On ne sait pas.
Mais oui, et c'est vrai que c'est un jeu très redondant, parce que tu fais combat,
tu vides la map.
Mais tu sais quoi, moi j'ai besoin d'un jeu où tu vides des maps de temps en temps, et je préfère, par exemple, vider la map de Ronin que vider la map de FF7. Mais c'est juste une histoire de goût personnel.
Moi, j'aime bien voler en deltaplane pour caresser des chats, donc on s'y retrouve.
Tu le fais de manière très érotique.
Sans transition aucune, Princess Peach Showtime est l'autre jeu dont on va parler ce mois-ci. Princess Peach Showtime sorti sur Switch. En même temps, Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin, un programme totalement différent hein, dans l'esprit.
Deux salles, deux ambiances.
C'est pas le plus gros jeu de mars de Nintendo.
Mais pourtant, c'est mieux vendu Dragon's Dogma 2 au Japon. Mais voilà, Princess Peach Showtime, c'est enfin le retour de Peach au premier plan avec un jeu à son nom, à sa gloire, puisque Super Princess Peach était sorti sur DS il y a fort longtemps. Un jeu d'ailleurs plutôt réussi, Princess Peach Showtime propose d'incarner la princesse du royaume champignon, mais princesse qui va pouvoir changer de costume au fur et à mesure des salles de théâtre dans lesquelles elle va rentrer.
Elle est enfermée dans un théâtre magique.
Exactement, Princess Peach Showtime. Alors oui, c'est un jeu qui... s'adresse à un autre public forcément que celui
plus jeune.
Un public plus jeune que celui qui regarde
Rise of the Ronin, ouais.
Rise of the Ronin, on va dire qu'il n'est pas 18 plus.
Que le livre dont j'allais parler.
Est-ce que ça en fait un mauvais jeu ? Eh bien, pas du tout, puisque il porte déjà la marque de Goodfield, un studio qu'on avait revu pour Mameda de Bakelou dernièrement, et
c'est
qui a signé pas mal de jeux pour Nintendo dans toute son histoire, notamment tous les Kirby au fil de l'aventure, mais également les Yoshi, Crafted World, World, des jeux de plateforme plutôt bien accueillis au moment de leur sortie. Daniel, tu as pris le temps d'y jouer un petit peu.
Ah bah, c'était même un de mes jeux d'hôpitaux.
Ouais.
Figure-toi, puisque il était sur Switch, donc c'était facile. et que vraiment, c'était la seule sortie Nintendo du mois.
Est-ce que tu as passé un bon moment ?
Ouais, je trouvais ça divertissant. Mais c'est pas du tout un jeu de plateforme dans l'ADN de Nintendo, le jeu de plateforme, c'est-à-dire les niveaux faciles et puis ensuite il y a des niveaux difficiles avec des sauts millimétrés. Là par exemple, il y a une esquive qu'on vient de voir à l'instant et une esquive qui offre où il y a un frame quand même très très large pour le réussir, mais genre plus large que Bayonetta. Donc tu devines que ça s'adresse quand même à un public plus jeune. Ouais. Mais il y a un truc qui je trouve décisif dans ce jeu, c'est que c'est un jeu qui s'adresse pas tant aux fans de jeux de plateforme Nintendo, mais plutôt aux jeux de plateforme qu'il y avait sur Super Nintendo. Et je pense notamment à Goemon, en fait. Mm-hmm. Goemon, et pourquoi ?
Genre du multi-épreuve.
Et pourquoi ? Parce que, oui, tu sais, le gameplay de Goemon...
Goemon, c'était pas facile.
Goemon 64, plutôt.
Non, Goemon 64, et voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que Goemon 64, c'est le même réalisateur.
C'est vrai.
Le mec a réalisé un jeu, c'était Goemon 64, il a pu réaliser de jeux entre-temps.
Et Bisoumaru.
Et il est revenu avec ce jeu-là. Et ça sent, ça ressemble à Bakelou, ça ressemble à Goemon, c'est-à-dire ça joue sur les échelles, les différents plans. Tu vois, il y a plein de petites marques de gameplay assez rigolotes.
Tu dis ça parce qu'elle est déguisée en ninja ?
Il y a des séquences où tu deviens une Kunoichi, exactement.
Kunoichi, comme on disait à Joy-Con.
Kunoichi.
Kunoichi.
Ok, d'accord. et du coup, je trouvais ça plutôt plaisant. Et c'est plutôt dans la veine des jeux de plateforme qu'on avait à l'époque de la Saturn, je dirais. C'est-à-dire des jeux que tu peux finir en une après-midi.
Clockwork Knight.
Je pense exactement à Clockwork Knight, Astal, tu vois, même pas Astal, mais plutôt Clockwork Knight.
Silhouette Mirage.
Silhouette Mirage est un peu plus complexe quand même, mais du coup, c'est un peu ce genre de jeu de plateforme accessible.
Il n'y a pas de sang là. Hein.
C'est le jeu. Ah, non,
ouais,
c'est...
ton exécution. L'infiltration. L'IA était au niveau de Rise of the Ronin.
Par contre, je trouve que la replay value est pas ouf. C'est-à-dire que j'ai aucune envie de refaire les niveaux pour récupérer toutes les pièces cachées.
Alors, moi, c'est un des problèmes que j'ai avec le jeu, au-delà de toutes ses qualités. C'est le seul que je vais évoquer là. C'est que quand tu peux pas le faire à 100% d'une traite.
Non, c'est impossible.
Puisque les pièces cachées sont véritablement bien cachées. Et tu si tu en loupes une, tu ne peux pas. Si tu veux rejouer le niveau en disant ah bah je l'ai loupé, je vais aller quand même la chercher, bah tu n'as pas de checkpoint, ce qui fait que tu es obligé de le refaire en intégralité.
Tu dois tout refaire et c'est trop pénible.
Et c'est trop pénible parce que les temps de chargement sont assez longs, parce que les séquences, sans être très longues, en tout cas t'as pas forcément toujours envie de les refaire aussitôt franchies. Donc c'est juste le problème, c'est que quand en gros tu sais c'est comme dans les Mario, voilà, si tu as récupéré une pièce. Les pièces sont consignées au fil de l'avancée de ton niveau, et si tu en as récupéré une intermédiaire, tu ne peux même pas revenir à la séquence précédente en fait. C'est-à-dire que si tu franchis un rideau de théâtre, tu ne peux pas revenir en arrière.
Le checkpoint,
c'est très très rare de pouvoir aller chercher une pièce que tu as oubliée, sauf si elle est vraiment dans la même séquence. Mmh. Ce qui fait que le 100%, la perspective du 100%, quoi qu'il arrive, tu es obligé de refaire un tour. Et je ne sais pas si c'est vraiment un jeu qui nécessite plusieurs.
Mais je t'ai dit, j'ai aucune envie de le refaire.
Alors, c'est ce qui est assez bizarre, c'est-à-dire que.
C'est un jeu d'action hyper scripté, quoi.
C'est un jeu qui joue beaucoup sur le plaisir de la découverte de la mise en situation. C'est-à-dire que c'est quoi le nouveau pouvoir de Peach quand elle le débloque, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, quelle séquence scriptée va se déclencher,
quel va être le gameplay contre le boss,
quel va être le gameplay qu'on te propose. Donc si t'es cuisinier, t'as un petit cookie mama où tu déposes les fraises ici ou là, qui est assez rigolo mais que t'as pas forcément envie de refaire. Quand t'es en patineuse, t'as toute une séquence de glisse ou même des boss qui reposent sur le fait d'avoir avec toi des partenaires de patins et je, voilà des petites idées toujours très fraîches mais qui se limitent à un ou deux parcours, pas plus.
Parce qu'il faut dire aussi que l'univers ensuite va revenir, par exemple il y a la patineuse artistique et tu peux avoir d'autres niveaux de patineuse artistique.
En fait c'est plusieurs ateliers, voilà. Donc tu vas les faire une fois pour la découverte du pouvoir, deux fois pour la façon dont le pouvoir va être mis en valeur par d'autres séquences, et une troisième fois, grosso modo, avec une épreuve un petit peu plus complexe. Elle est un petit peu plus courte, d'ailleurs. Donc, c'est un jeu qui est très séquencé, qui marche très bien dans le côté apéritif. Voilà, t'as ton Monster Munch ici, t'as ton Doritos, tout ça.
Mais ils ont essayé quand même de faire en sorte qu'il y ait un gameplay genre profond et
qui sert d'initiation parfaite à ce que peut représenter une petite séquence de gameplay telle que tu la prendrais dans un tel ou tel jeu de plateforme. C'est vraiment le... C'est même pas un jeu de plateforme, c'est un jeu multicarte où tu as un peu de plateforme, un peu d'épreuves balisées, un peu
jeu multi-activité.
Multi-activité, et ça marche très bien pour 6-7 heures quand tu es dans le plaisir de la découverte. De là à le refaire.
C'est vraiment, c'est le refaire. Je pense que le replay value.
C'est une suite de mini-jeux finalement.
C'est, bah ouais,
de mini-séquences.
De mini-séquences qui sont bien faites.
Il y en a des vraiment très bien.
Alors pas toutes. Hein. Le détective de musée, je pense que ça peut marcher quand. Quand tu
as 8 ans.
T'es jeune, ouais. Et alors, la belle ma fille, je vois à quel point ça fonctionne. Hein,
ça a marché sur elle ?
Ouais, le côté cooking mama, elle dit j'adore la pâtisserie, c'est rigolo. Je remets les fraises au bon endroit. Et puis, comme c'est pas toujours évident avec le stick.
Mon fils, il a regardé, il a retourné sur les dessins animés.
Donc, jeu plaisant, jeu mineur.
C'est clairement un jeu mineur, mais tu sais quoi ? Je voudrais saluer les jeux mineurs. On n'a pas assez de jeux mineurs, en fait, de jeux qui pourraient être genre une belle après-midi avec des copains.
Je sais que nous, on s'en fout parce qu'on reçoit les jeux gratuitement. Jeux mineurs à 60 euros, quand t'as c'est beaucoup ça. De propositions à 100 euros.
C'est ça.
C'est un jeu Nintendo, donc il ne baissera pas de prix.
Il ne baissera pas de prix, en tout cas, pas avant 6 ans et à 45 euros.
Ouais.
Donc,
celui-là, peut-être, ils feront un effort parce que, justement, ce n'est pas une production... C'est pas un in-house, je sais pas.
Mais belle production value, à part peut-être. Bon, on peut toujours.
Ça, c'est très drôle. Genre
on peut toujours parler de la fluidité. Parce
tu dois refaire le gâteau comme.
Mais c'est pas un jeu que tu peux voir avec un barème conscient de gamer, tu vois.
De gamer et surtout de quarantenaire.
Est-ce que ce serait pas genre un espèce de WarioWare pour les petites filles?
Mais c'est pas que pour les petites filles. Hein.
Ouais,
franchement, là,
ça, je pose la question.
Mais c'est vrai que
la Kunoichi,
c'est
clairement.
Que l'esthétique.
C'est génial
ça. Mais en plus, Peach est déter, quoi. Elle est mousquetaire, elle est ninja, elle est maître de kung-fu.
C'est
très très cool. Certains boss sont pas toujours évidents non plus, tu vois.
Ouais, celui-là, il est assez rigolo d'ailleurs.
Ouais. Bref, c'est un jeu récréatif. Je pense qu'il est vendu un peu trop cher.
Mais c'est clairement, tu vois,
par rapport à la proposition de gameplay qu'il a aujourd'hui. Mais
je pense que tu vois, comparativement en termes de production value par rapport à l'œuvre de Nintendo, tu vois, il y a eu Yoshi Island, et ben là, c'est Yoshi Story, tu vois.
Ouais, voilà, exactement.
C'est Yoshi Story. Yoshi Story, tu c'était 6-7 niveaux, tu y passais une après-midi dans... et tu l'avais fini. Mais Yoshi Story a été vendu le même prix sur N64.
Dans un monde où Super Mario Wonder existe, tu peux toujours te poser la question de savoir lequel tu privilégierais.
Ah non, mais c'est Mario Wonder 10 000 fois.
Mais Mario Wonder a une approche beaucoup plus délicate. On s'en était fait l'écho d'ailleurs quand on avait chroniqué. Mario Wonder, t'as le dash à assimiler, t'as plusieurs boutons. Là, c'est deux boutons, quoi qu'il arrive, le saut et l'action.
Et t'as le passif de Mario, quoi, tu vois, oui, c'est exactement ça. Il faut connaître un petit peu un Mario pour en profiter un petit peu.
Là, on est peut-être sur une tranche d'âge un peu plus limitée ou sur une première barrière d'apprentissage. Peut-être que c'est le premier apprentissage avant de te frotter un univers Mario qui est un peu plus.
Je trouve ça cool qu'il fasse quelque chose avec Peach aussi.
Je trouve ça cool qu'il fasse quelque chose avec Peach et qu'il ne dénature pas le personnage, bien au contraire.
Non, il est très proche du Peach du ciné en fait.
Mais voilà, on est clairement
très proactif et tout.
Clairement, on n'est plus dans cette cible-là. On peut reconnaître les mérites du jeu. Mais
je trouvais que c'était le détective était plutôt mignon. Voilà.
Ouais. Je l'ai mis dans le tableau des notes. Je sais pas si c'est vraiment un jeu qu'on a besoin de noter.
Ah, moi, je peux le noter. Moi, je mets un 6, mais 6 généreux.
Voilà, pareil, 6 généreux aussi.
Et c'est-à-dire vraiment, vraiment. c'est dans la veine. C'est vraiment Goemon. C'est vraiment très Goemon. Goemon ouais. 64, hein, je précise.
Ah, évidemment, certains vont faire le rapprochement. T'as mis 6 Dragon's Dogma et 6 à Princess Peach. Comment c'est possible? C'est
non, pas non, du tout attends, la même proposition, moi, j'ai pas noté Dragon's Dogma encore.
Oui, non, mais moi.
Ça se réglera à Discord.
Ouais, ça se réglera par coup de Discord interposé. Après, c'est pas du tout le même jeu. Rappelons-le. C'est pas du tout le même univers.
Notez souhait.
Et la note est interrogée. C'est subjectif d'une opinion.
Rappelons-le, c'est que. Et toi, tu mets 6 aussi?
Ouais, ouais, pareil.
C'est que notre ressenti personnel, hein, bien sûr.
Non, et puis tu l'encadres dans une proposition de jeu, tu vois. Si tu prends Mario Wonder sur un même registre, même si on n'est vraiment pas dans la plateforme pure, mais dans un jeu destiné à un plus large public c'est de pas... l'univers Nintendo, bah, tu peux dire qu'il est beaucoup moins pertinent.
On n'est pas dans Céleste, hein. C'est vrai. C'est...
Non. Pour conclure, ce Famitsu Mimasen du mois de mars particulièrement chargé de... jeu un peu plus mineur, de jeu un petit peu plus
on reste
de
dans,
niche, mais
on reste dans le mineur. Hein.
Dans le jeu vidéo japonais, on va commencer par Macross Shooting Insight. Shoot them up. Alors j'allais dire vertical, mais c'est pas tant le cas parce qu'il enchaîne beaucoup de
shoot
séquences.
Shoot them up, géométrie variable.
Exactement. Et
il est horizontal, vertical et en profondeur aussi.
Signé Bushiroad qui est sorti lui aussi dans le courant.
Bullshitroad.
Bullshitroad. Non, je sais pas ce truc. Donc qui là aussi faisait la synthèse, opérait la synthèse de tous les univers Macross.
Non, pas tous.
Pas tous, non.
Il n'y a pas Macross 2.
Oui, c'est vrai. En tout cas, beaucoup d'univers Macross, dont certains en DLC.
Hélas.
On va peut-être en faire un combo. Je ne sais pas ce qui est prévu encore. On hésite.
Ah, je pense que ça vaut le coup d'en parler parce que c'est.
J'ai envie que Greg le voie.
Ouais, j'ai envie d'avoir ton avis en direct.
C'est quand même une grosse déception. Par rapport à ce qu'on a vu au TGS. C'est-à-dire qu'au TGS, on a vu
le TGS. Moi, j'ai senti que ça allait être
la douille. J'ai senti que c'était la douille au TGS.
Ah, écoute, mais... moi, j'avais envie d'y croire.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Et j'admire le fait que tu aies eu la foi, mais là, la réalité.
La réalité nous a frappé de plein.
Et en plus, on commençait à sentir l'odeur, puisque sur Amazon, il se faisait complètement review bombé.
Oui, il a eu plusieurs petits retards aussi à l'allumage. Donc,
mais. Le mot. Commencer à tourner que ça allait être un kusoge, donc
un jeu caca.
Un jeu caca. Et ça, c'est pas la séquence la plus palpitante. C'est celle où on est en vue d'en haut, en mode robot. Pouillot, t'as l'impression.
Non, bah c'est ni fait ni à faire. Vraiment, c'est du temps perdu pour tout le monde.
Les niveaux se ressemblent tous.
Les niveaux, voilà.
Ça, c'est toujours
c'est le problème d'une série dont les combats se déroulent majoritairement dans l'espace. Si vous arrêtez, si je me trompe. Non, bah non, mais un Cross Plus.
Non, il y a Cross parfois... Plus, c'est sur Terre. Mais les ennemis les plus intéressants sont dans l'espace.
Mais il y a des moments où ils sont dans les forteresses. Ils auraient été dans le SDF. Oui,
alors, il y a quelques forteresses de temps à autre, mais on va dire que
ils auraient été dans le SDF.
Dans des champs d'astéroïdes de cette nature. T'as l'impression d'évoluer tout le temps dans la même chose avec des boss qui se répètent bien souvent. Et le jeu est très très dur en mode normal.
Ouais.
Ah ouais.
Enfin, moi je l'ai trouvé.
Du coup, tu peux mettre mode easy.
Oui, c'est ce qu'on a fait pour traverser. On admet pour en voir le maximum pour avoir un avis.
Mais les niveaux
construit.
Se ressemblent tous, c'est les mêmes.
Mais voilà, c'est ça, parce que sinon on y serait encore, je pense.
Et le mode easy en plus te remet de l'énergie
parce
au fur et à mesure.
Parce que t'as pas de checkpoint entre les différentes séquences que tu peux faire.
T'es obligé de tout retaper.
Donc si tu rates la séquence de boss qui intervient 10 minutes après celle-là. Tu es obligé de repartir de cette séquence-là qui est absolument
dégueulasse.
Nulle.
En mode horizontal, c'est pas bien.
mode horizontal, c'est...
Ouais. C'est genre,
son... Mode vertical, c'est affreux.
On est, on est 40, on
le
est 40
pire, c'est le mode 3D.
Ah, le mode 3D, ouais.
À la côte, à la panorama, à la Rainbow Cotton, là où tu es vu de derrière, là, la Air Twister, un combo qu'on verra peut-être un jour sur la chaîne. Combo tourné en décembre, toujours pas disponible au mois d'avril, mais rassurez-vous, on vous le garde en réserve. Non, c'est pas palpitant, c'est pas rythmé, tout est très lent.
Et il y a aussi un autre truc, et ça c'est un détail important, c'est que c'est un jeu qui se prévaut d'avoir mis l'univers musical de Macross avec les vraies musiques et les vrais génériques. Et alors,
tout l'argent est passé là-dedans. Peut-être.
Alors non, parce que bizarrement, tu vois Macross Plus, qui est quand même la musique de Yoko Kanno, tu pourrais croire qu'ils ont fait, ils ont cartonné et tout, ils mettent la musique la plus inconnue de Macross Plus. Ah. Pourtant, je connais bien Macross Plus, je me dis, mais c'est quoi cette musique-là? Ils auraient pu mettre Information High, ils auraient pu mettre les concerts de Sharon Apple.
Il n'y a pas Sharon Apple.
Ils ont mis, ils auraient pu mettre le générique.
Est-ce que ça serait pas parce que c'est la méchante?
Ils auraient pu mettre le générique.
Pardon, non. Spoiler alert.
Ils ont mis tout le truc le plus nul. Même la musique de Macross 7. Macross 7 a quand même des. Oui. Tu peux dire.
Ah, Macross 7, il n'y a pas le générique?
Il n'y a pas les Firebomber. Il y a une. Ouais. Mais pas connue, enfin, la moins, pas, y a pas la main, quoi, tu vois, y a pas celle de, que t'as envie d'entendre, tu sais, quand Nicky Bassara, à la fin des épisodes, il balance sa chanson, là, tu l'as pas. Et t'as aucune musique, genre, t'as pas le musique Dogfight de Macross, qui est quand même un truc connu qui fait tararat, tararat. Et c'est mieux quand je chante que sur les. Quand Greg se bouche. Mais bref, ils ont saccagé le truc, et en plus quand la musique arrive, et alors ça c'est incroyable, t'as des séquences, tu vois, où les personnages se parlent, qui sont des séquences figées, et tout d'un coup ça va faire pause alors que la musique commence. Le timing, on dirait que ça n'a pas été testé en fait, et du coup ça fait une pause dans la musique et ensuite ça repart.
Ça fait jeu à montrer dans les écoles de game design peut-être.
Mais même le système de jeu qui consiste à augmenter ton laser en récupérant des joyaux jaunes, c'est pas ouf.
Oui, t'as
plein d'éléments de quête pour débloquer des espèces de petits bonus liés à chacune des séries. Les caisses, elles mettent des plombes à se détruire.
Une qualité, il est sorti sur toutes les consoles et il est pas plus mal sur Switch.
Oui, sur Switch, il tourne comme ça, mais faut dire la pauvreté graphique globale de l'ensemble.
Genre, Macross, c'est des missiles partout, et là, tout d'un coup, c'est des petits piou-piou nuls.
Et en fait, tu sens qu'ils ont ralenti le gameplay exprès pour pas surcharger la mémoire et pas surcharger le nombre de tirs à l'écran, mais du coup, ça rend ton vaisseau particulièrement lent et tout est laborieux. Voilà, c'est un
non
totalement anecdotique, c'est voire oubliable, voire
catastrophique. vraiment, c'est pas.
On va pas tourner autour du pot, c'est
c'est vraiment très décevant.
Bien son étiquette.
Il faut le dire aux fans de Macross, parce que je sais qu'il y en a qui vont prendre.
Ah bah,
parce que
j'en dédicace une à Monsieur Garcin qui se l'est acheté l'autre jour. Il m'a montré la boîte et je lui dis, mais tu sais qu'en fait, il paraît que c'est nul. Oh non, c'est pas vrai.
Regarde, même là. C'est pas ouf.
Bon, allez, on va pas s'éterniser sur Macross Shooting Insight. On va parler d'un autre jeu que tu attendais, toi, Daniel.
Ah ouais, c'est vrai.
C'est les dernières aventures de Shin-chan dans Shiro of Cold Town, qui sortira chez nous, mais qui n'est
uniquement disponible. Sumi no Machino Shiro. Voilà.
Uniquement disponible au Japon à l'heure qu'il est.
Mais, alors, uniquement disponible au Japon à l'heure qu'il est, mais il a été annoncé en version asiane.
Anglaise. Ah oui, d'accord.
En version asiane anglaise, et peut-être qu'il sortira en Occident, mais en tout cas, il sortira en version asiane où il y aura l'anglais. Ça peut aider parce que le langage de crayon Shin-chan et de Shinosuke, et bah, c'est un petit enfant, mais qui parle de manière un peu argotique. Il faut avoir un tout petit peu l'expérience de parler à des gosses, des sales gosses japonais pour comprendre. Et on reprend l'archétype de il va en vacances, mais par contre, c'est pas du tout le même gars qui avait assuré les Boku no Natsu Yasumi. Il est parti.
Ah bon?
Non, c'est pas
je pensais que c'était le gars qui était resté.
Non. Du coup, ça a vraiment changé. Du coup, ça redevient un peu un point and click. Du coup, tu as des.
Ah, c'est pas du tout la même typologie de jeu, ni la même.
Non. C'est pas du tout le même truc. Quand tu restes dans ta cambrousse, puisque Shinosuke avec sa famille arrive dans sa cambrousse, c'est magnifique. Hein. Vraiment, le jeu est c'est divinement beau parce que tu sais, il y a tout cette espèce un peu nostalgique Miyazakien hein, de évoquer la campagne japonaise. Mais quand t'es dans la cambrousse, c'est généralement collectionner les trucs, récupérer les légumes, revendre tes légumes, récupérer les lucioles, récupérer les insectes. Voilà. Et tu vis un peu là-dedans. Et t'as une autre partie complètement différente qui est dans cette ville charbonneuse, cette ville un peu minière, où tu vas par l'intermédiaire d'un train magique. Donc c'est pas du tout la même ambiance que précédemment, et t'as des, et là t'as des missions à accomplir et donc tu fais progresser de jour en jour un peu l'histoire. Je suis pas allé au bout évidemment, mais je trouve ça moins, c'est moins ouf que le précédent. Ben,
c'est
évidemment.
Moins des paysans, j'imagine.
C'est moins des paysans.
C'est quand même très beau graphiquement.
Ouais, c'est incroyable le rendu qu'ils ont réussi.
Mais par contre, regarde, quand tu changes de plan et tout, tu vas voir. Ça, en plus, on est en coucher du soleil, mais il y a plein d'autres. Genre, c'est beau comme des photos de la campagne japonaise, quoi. Donc, je peux pas vous dire ne le faites pas. Au contraire, regarde, mais regarde.
Ah ouais.
T'as vu comment c'est beau. Oui, c'est ça la puissance évocatrice, quoi. Ouais. Et donc, ouais, c'est le train magique qui t'emmène dans cette ville un peu qui presque. Steampunk, parce que c'est ça en fait, hein, c'est ça la jaquette et l'univers. Et donc, oui, voilà, quand on appuie sur L, on passe en mode cucu, et donc il court, on marche plus vite, fesses. On marche plus vite comme ça.
Donc, très bien, bon, ouais, tu le. Difficile de le conseiller par rapport au précédent.
Non, mais il faut dire que ça existe, oui. et que c'est une offre qui. Voilà, les gens, par exemple, au live, les gens nous ont dit, ah, mais il faut parler de l'import et tout. Mais en fait, l'import n'existe presque plus stricto sensu. Mais par contre, on a ce genre de jeu et on aime bien en parler quand ils sortent.
Genre de pépite.
De petite pépite, et qui sortira donc en version asiane d'ici peu.
Très bien. Crayon Shin-chan.
Sumi no Machi no Shiro, je crois.
Très bien. Eh bien, voilà qui conclut ce Famitsu Mimasen.
Copieux.
Pas tout repas. Et encore, ça veut dire qu'on revient sur Dragon Ball.
Et encore,
on a dû
dire à celui-là, on le fait pas, celui-là, on le fait pas.
Oui, les démos de Solar Blade, le mois prochain, ça sera plus calme, je pense.
J'espère. Il y a quand même du jeu.
Il y a du jeu. Et puis, ça dépend le timing, parce qu'on a, on a quand même un jeu level 5 qui sort le mois prochain.
C'est vrai, il y a Yuden Chronicle, il y a Sandland, il y a possiblement Saga Emerald Beyond.
Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais...
C'est le jeu japonais est riche.
Très japonais. Oui.
Alors, on est ravis de pouvoir vous proposer tous ces jeux-là. Ça veut dire beaucoup de temps. Hein. C'était encore 70 heures hein, au bas mot ce mois-ci.
On a vécu un truc avec une grosse avalanche. Franchement, on n'a pas vu ça depuis... Et pourtant, on a eu 2020 qui était vraiment très chargé. Mais là...
Promis, on essaiera de vous faire des dossiers. Hein, mais pour l'instant, il faut quand même qu'on joue aux différents jeux qui passent dans ce Mimasen Turbo. Pour notre part, on va attaquer la dernière partie de cette émission. C'est l'actualité du jeu vidéo où l'on va rendre hommage à Inomata Mutsuo. C'est parti.